I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
16h passées de 57 minutes. Bonsoir à tous. Merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Punchline en mode week-end. Vous le savez, on est ensemble jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi soir avec Gabriel Cluzel. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir Patrice.
En forme comme tous les vendredis, j'espère.
Comme tous les vendredis.
Je vous vois très en forme le matin. Je vais déjà louer, attention. Hein. je vous prends le jeune qui est également présent. Bonsoir.
Bonsoir Patrice.
Je mets la pression ce soir, attention.
Oui, non, je fais ça.
Directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Jean-Sébastien Ferjou vient de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir.
J'espère vous mettre la pression à vous. Non,
mais vous ne me voyez pas dès le matin.
Et effectivement, Marek Alter qui vient nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir.
Écrivain qu'on ne présente plus, bien évidemment. Et on parlera de la Russie, de cette rencontre, de ce face-à-face entre Volodymyr Zelensky et d'un certain Alain Delon. Et bien sûr, de votre nouveau plaidoyer qui est paru dans Les Échos avec cette caravane entre Kiev et Moscou. On vous en dit plus dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. C'est tout de suite. Les infos, le JT ? Oui, non ? Oui, non ?
48 incendiaires soupçonnés d'être à l'origine de feux de forêt cet été ont été interpellés. Parmi eux, 12 ont déjà été condamnés. La plus lourde peine, 2 ans de prison, a été prononcée contre un jeune homme reconnu coupable d'une série d'incendies en Gironde. D'autres mineurs ont écopé de mesures éducatives. La reprise des contaminations au Covid s'accélère. Hier, 38 000 cas ont été signalés. L'épidémie était retombée à un niveau particulièrement bas fin août, mais ces dernières semaines, la hausse est continue. Les conséquences pour l'hôpital, elles, sont encore difficiles à prévoir, selon les experts. Au chapitre judiciaire, le procès Milas, la conductrice du car scolaire entrée en collision avec un train en 2017, est jugée depuis lundi à Marseille. Hier, la conductrice s'est effondrée en sanglots. On apprend aujourd'hui qu'elle a été hospitalisée en cardiologie. Nadine Oliveira n'arrive toujours pas à expliquer la collision qui a coûté la vie à 6 collégiens. La suite du procès est programmée lundi. Et puis on finit avec une page d'histoire du tennis qui se tourne ce soir. Roger Federer va jouer le dernier match de sa carrière à Londres. Le Suisse jouera en double avec Rafael Nadal pour la Laver Cup. Début du match à 21h45.
Yann Effelé pour le rappel des titres. Merci à vous. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point. Sur l'actu, je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous. Les mots signés Volodymyr Zelensky à Alain Delon au terme de l'émission Face à Zelensky, le président ukrainien a donc échangé avec l'icône du cinéma français, ça donne ça.
Je pense qu'il a ses raisons. Ses raisons, c'est l'ambition. C'est l'irrespect. Il pense sans doute que nous ne sommes pas une nation à part, que nous ne sommes pas des gens différents. Il pense que nous faisons partie de son monde. Il considère, ou peut-être il a envie, le retour de l'Union soviétique. Il considère, en tout cas de son point de vue, c'est juste et que tous ceux qui l'empêchent sur ce chemin, ce n'est que de la chair à canon. Il poursuit son objectif, parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il sait parfaitement combien de personnes périssent tous les jours. Il connaît tout jusqu'au moindre détail, mais ça fait partie de son plan. C'est une approche colonialiste à l'égard de notre pays et c'est tout.
Oui, mais ce qui est dramatique, c'est ce que je pense, c'est pas forcément la vérité, c'est que c'est le songe d'un homme, c'est pas d'un pays ou d'une nation, c'est le rêve d'un seul homme. Vous savez ça, quand même.
Marek Alter, vous qui connaissez justement Vladimir Poutine, depuis plus de 30 ans, hein, si je ne m'abuse.
30 ans, oui.
30 ans tout de même. Vous pensez quoi, justement, de l'analyse de Volodymyr Zelensky quand il parle de Poutine ?
Écoutez, là, Alain Delon, il a raison. Et quand j'entends parler mes camarades de parler de la Russie, un peuple hors loi, hein, paria, hein, ça veut dire on aime bien Tchaïkovski, on lit bien Tolstoï, on aime bien Dostoïevski, on applaudit Hein, le lac des cygnes, c'est un peuple, ce sont des gens comme nous. Ils m'ont sauvé la vie. Hein, quand Hitler voulait me transformer en petite savonnette, ils m'ont ouvert la porte. J'ai vécu avec 50 grammes de pain par jour. Mais tout le monde vivait avec 50 grammes de pain par jour. C'est pas seulement moi. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et j'étais pas content de notre président qui est venu à l'ONU.
Ouais.
D'ailleurs, il n'est pas le seul. Tout l'Occident passe son temps à donner des leçons de morale à tout le monde. On oublie que les colonialistes, c'était nous. Nous avons colonisé l'Afrique, l'Asie, etc. Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Ukrainiens. Moi, j'aurais aimé voir notre président s'adresser au peuple russe. Vous, Tolstoï a commencé à écrire en français. Vous prenez « La guerre et la paix » de Tolstoï, vous connaissez. Les premières pages ont été écrites en français. Il adorait Stendhal. S'adresser à ses peuples. Alors, moi, je m'énerve parce que je trouve que je regarde la télévision et je vois traverser la haine. Je ne parle pas de CNews, il y a d'autres chaînes de télévision où sont engagés comme si on était dans une arène romaine face à une bataille entre deux gladiateurs et on attend la mort de l'un de deux. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui meurent. Pendant que nous, on parle des gens qui meurent. Moi, je me souviens, j'étais un enfant, j'entendais les sifflements des bombes et je mettais la tête dans les épaules parce que je ne savais pas où cette bombe va tomber. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. La Bible nous dit simplement, quand vous voyez deux personnes en bagarre, vous les séparez et après vous jugez.
Et dans ce cadre-là, Geoffroy Lejeune, est-ce que cet échange, on a vu un court extrait effectivement entre Volodymyr Zelensky et Alain Delon, vous semble un peu hors du temps, voire décalé ou pas du tout ?
Si, moi ça me met même un peu mal à l'aise en réalité. Il y a quelques mois, il y a un humoriste qui s'appelle Gaspard Proust qui a écrit une chronique dans le Journal du Dimanche qui a fait polémique parce qu'il a utilisé au tout début du conflit l'expression pour parler de Zelensky de « youtubeur militaire de salon ». Et en réalité, ça n'est pas que une blague d'humoriste. Je pense qu'il avait touché quelque chose d'assez juste. Depuis le début de ce conflit, on voit le dirigeant ukrainien dans des endroits où je crois il ne devrait pas être. Et je trouve ça un peu gênant, le festival de Cannes, par exemple, cette interview. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un décalage entre la situation de ce que vit son peuple, de ce que vit son pays, et cette mise en scène qui, moi, me dérange un petit peu. Et en règle générale, et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marc Elter, en fait, je pense que nous, depuis l'endroit où on est, on a tendance à vouloir regarder ce conflit avec des lunettes extrêmement simplifiantes et à vouloir avoir une vérité tout de suite établie extrêmement, de manière extrêmement simple. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître très bien les raisons de l'invasion et comme à peu près tout le monde, d'avoir été surpris par ce qui s'est passé au mois de mars dernier. Et je trouve ça un peu gênant la manière dont on cherche des gentils, des méchants, des causes et des conséquences extrêmement simples et à choisir un camp absolument. Si vous reprenez ce qu'on a dit, nous, ici, pendant les six premiers mois de ce conflit, c'est la Russie est seule au monde et le camp du bien, c'est l'Ukraine. Et en réalité, on découvre que la Chine, l'Inde ne pensent pas forcément comme nous, qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus compliquées que ça, que le rôle des Américains est trouble, bref. Et que donc, à la fin, cette manière de faire de la propagande de masse et de faire de la séduction cathodique avec ce type d'interview comme Alain Delon ne sert pas, en fait, la compréhension des choses et ne nous aide pas, en réalité, à nous positionner. Je pense qu'on est en train de passer, en fait, nous, Français et même Européens, à côté de ce conflit à cause de ce genre de choses.
Et je salue Benjamin Haddad, qui est député Renaissance de Paris, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Sébastien Ferjou, sur cet échange, je vous en donne un autre extrait. Je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous. D'abord, lancé Volodymyr Zelensky, petit échange d'amabilité. Pour moi, vous êtes toujours une autorité, un immense acteur. Est-ce que ça vous semble décalé ou est-ce qu'on est dans le thème avec cette guerre qui dure quand même depuis plus de 8 mois?
Cet échange-là en particulier n'est pas très intéressant. En revanche, moi je comprends très bien que Volodymyr Zelensky essaye de porter la parole des Ukrainiens. Et je pense qu'il est au contraire rentré dans l'histoire le jour où il a dit « je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes » quand les Américains lui proposaient de l'exfiltrer de Kiev. Donc c'est son rôle de président de l'Ukraine. Après, je ne vous dis pas qu'il y a d'un côté le gentil absolu et de l'autre le méchant absolu. Je pense qu'il faut quand même se garder d'un relativisme trop grand et savoir reconnaître qu'il y a des plus méchants que d'autres, ce qui ne veut pas dire que le moins méchant n'ait aucun tort.
Très important que des gens célèbres s'engagent, a-t-il répété, notamment à Alain Delon. Ça rentre dans cette stratégie.
Il est dans son rôle. Il n'avait pas d'autre moyen que de prendre à témoin les opinions publiques occidentales. Après, on peut se poser des questions sur la manière, la diplomatie, la manière dont la France, notamment, mais on n'a pas tant de moyens que ça concrètement, devons nous engager dans ce conflit-là. Mais enfin, quand même, faire comme s'il n'y avait pas très clairement un agresseur, faire comme s'il n'y avait pas les crimes de guerre commis par la Russie, pardon, mais l'argument que vous employez tout à l'heure, la Russie est elle-même un empire colonial. Ça n'est pas parce que nous avons nous-mêmes été des empires coloniaux que la Russie n'est pas un empire colonial. Regardez la manière dont est en train de s'opérer la mobilisation sur les peuples des républiques périphériques. En Bouriatie, dans un certain nombre d'endroits, il se trouve que je connais et que j'y ai des amis, donc je vous assure que si eux, ils se vivent comme étant un peu colonisés par un centre qui ignore leurs difficultés. Quant à l'argument de dire « mettons tout le monde d'accord », il me semble que Royaume-Uni, notamment pendant la dernière guerre, c'était aussi celui qu'on employait vis-à-vis d'Hitler. Donc je ne suis pas certain qu'il faille à chaque fois vouloir attendre que les choses se déroulent.
Vous souhaitez organiser cette caravane Marie Calter interreligieuse pour la paix qui irait donc de Moscou à Kiev, je le dis, via Istanbul et Varsovie.
Écoutez, bon, moi je ne suis pas un spectateur de l'histoire. Bon, j'atteins 86 ans, c'est pas mal. J'espère vivre encore 20 ans. Mais j'étais toujours engagé. Je me suis trompé, comme beaucoup de gens. Ah, pendant la guerre du Vietnam, je suis allé avec John Baez à Cambodge. C'était à Cambodge. Et c'est vrai qu'on a bien fait, parce que quand les Américains ont vu la police militaire américaine tirait John Baez par les cheveux, ils ont compris que c'était pas seulement une guerre contre des étrangers, mais c'est une guerre contre leur propre culture. Donc, comment intervenir ici? On n'a plus des prophètes, comme on appelait dans la Bible, Martin Luther King, Mandela, tout ça, ça n'existe plus, malheureusement. Peut-être c'est un moment à passer. Il reste les religions. Les religions sont là. Il y a dizaines de religions qui représentent presque là. Deux tiers de l'humanité, y compris les bouddhistes, les hindouistes, les protestants, les orthodoxes, les juifs, les musulmans, etc. Il y avait quelques amis avec l'imam Chalgoumi, avec les pères Christophe Patrick Desbois. Lui qui a remplacé Patrick Desbois. Puis les rabbins Moshe Levin, une trentaine d'autres représentants de religions, nous sommes réunis, nous avons dit qu'est-ce qu'on peut faire. On prend un bus sur lequel on marque.
Il faut faire la paix
maintenant. Caravane interreligieuse pour la paix, Moscou, Kiev, et on y va. Moscou, place rouge, on fait une prière, et je vous garantis, on aura 300 000 personnes autour de nous pour dire la
paix. Et d'après vous, vous qui connaissez encore une fois Vladimir Poutine, d'après vous, ça peut changer la donne?
Ça ne va pas changer d'avis, mais les Russes ne sont pas d'accord avec Poutine. Ce n'est pas parce que...
Le patriarche Kirill a donné sa bénédiction à la mobilisation partielle en Russie dans des termes qui étaient précisément... Soyez
300 000 personnes d'après Vladimir Poutine,
dans la gloire avoir de Dieu,
avoir le nombre de bus, on dit que c'était plus.
Il est au service du pouvoir. Ce ne sont pas les prêtres de Nijni Novgorod ou de Arkhangelsk, etc. C'est un pays immense. C'est-à-dire, je les connais, j'ai vécu là-bas. Donc, je pense, et la même chose, faire à Kiev. Je pense que ça donnerait, je crois qu'il faut arrêter cette guerre. C'est-à-dire, on arrête la guerre comment? Ou avec la mort d'un de deux? On le fait. Dans ce cas, on déclare la guerre et on bombarde le Kremlin. On a gagné.
Vous êtes convaincu par cette caravane interreligieuse qui irait de Kiev à Moscou.
Mais ce qui est certain, c'est que il faut chercher une voie pour la paix. Moi, dans ce conflit, je vais parler, puisque moi aussi j'ai une religion, je suis catholique, la catholique que je suis a trouvé terrible de voir ces chrétiens s'entretuer. Je pensais même pas que c'était encore possible de nos jours, pour être tout à fait franche. Donc, de fait, toute initiative pour la paix est bienvenue, et on pourrait imaginer que des dignitaires religieux n'y soient pas pour rien. Le pape a été assez critiqué parce qu'il a voulu œuvrer pour cette paix il y a quelques mois. Il a eu des mots qui ont été interprétés parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que quand on appelle à la paix, un certain nombre de gens ont l'air de dire « Ah, vous soutenez Poutine ?» Non, c'est l'idée, c'est que l'issue recherchée ne doit pas être une guerre nucléaire. Enfin, on est d'accord que l'apocalypse nucléaire, c'est pas souhaitable. Donc, à un moment, il faut trouver une issue, et le problème, c'est que le mot « paix » vous attire aussitôt une suspicion de complicité avec Benjamin Poutine, et que ça devient quand même pénible.
Non, mais je pense que tout le monde est pour la paix. Sauf Vladimir Poutine, qui a déclaré la guerre alors qu'on avait tenté une voie diplomatique. Le président de la République et d'autres s'étaient rendus à Kiev et à Moscou pour essayer de relancer les accords de Minsk. Il ne faut pas que la paix soit une soumission à l'agresseur. Il ne faut pas que la paix soit un encouragement d'une agression future. La diplomatie, souvent, c'est un dialogue, effectivement, et je crois d'ailleurs que les sociétés civiles ont leur rôle à jouer dans ce dialogue. Mais la diplomatie, bien souvent, c'est un rapport de force. On donne ici aux Ukrainiens les moyens de se défendre pour repousser les troupes russes jusqu'au moment où Vladimir Poutine soit comprend son échec, soit effectivement accepte de bonne foi un processus diplomatique. C'est ce qu'on avait fait dans les Balkans dans les années 90, quand on a mis fin à la guerre en Bosnie avec les accords de Dayton. Les Occidentaux avaient là directement déclaré la guerre à la Serbie tout en négociant. En même temps,
tout n'a pas été une réussite d'ailleurs. Il y a beaucoup à dire sur cette guerre des Balkans.
Mais bien sûr. Mais les relations internationales, on parle beaucoup du retour du tragique dans l'histoire. Moi, je crois que le tragique ne nous avait jamais quittés. On était juste un peu dans le déni. Il y avait eu des guerres sur le continent européen dans les années 90. La Russie avait déjà déclaré la guerre à l'Ukraine en 2014 en soutenant les séparatistes russes dans le Donbass et en annexant la Crimée. Mais vous parliez tout à l'heure de simplisme. Vous avez raison, il faut toujours garder de tout simplisme. Mais parfois, à force de vouloir être trop sophistiqué, on peut tomber dans une forme de relativisme, d'oublier tout de même les fondamentaux qu'il y a un agresseur et un agressé. Il y a une partie à ce conflit qui se dérobe à la diplomatie depuis le début. Et parfois, une forme de clarté morale, ça a aussi du bon. Et surtout, au-delà de la clarté morale, regardons la stratégie. Donc, ça fait 6 mois aujourd'hui, plus que cette guerre a commencé. Notre stratégie a été de ne pas rentrer directement en confrontation avec la Russie, mais en revanche de donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, avec des sanctions économiques, avec des livraisons d'armes. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ?
Avec un impact ?
Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, sous nos yeux. On voit l'objectif de la Russie, c'était l'occupation de l'Ukraine en allant directement à Kiev, en renversant le régime et en mettant une marionnette à la place de Zelensky. Les premiers assauts ont été repoussés, et là on voit depuis quelques semaines des contre-offensives ukrainiennes dans le sud et à l'est qui font des percées. On voit aussi que la Russie est de plus en plus isolée sur le plan diplomatique. Je crois que d'ailleurs c'est vraiment l'un des tournants dont on parle finalement assez peu des derniers jours. C'est ce sommet en Ouzbékistan où on a vu les dirigeants chinois et indiens pour la première fois ouvertement critiquer l'intervention. La pression économique, lentement mais sûrement, commence à porter ses fruits puisque les réserves de cash de la Russie sont réduites à néant. La Russie est en récession.
C'est là où tout le monde peut être d'accord autour de ce plateau.
Et 10%. Donc on voit aujourd'hui cet impact.
Les chiffres, publics publiés par la Banque centrale russe sur les excédents commerciaux.
Donc il faut rester calme.
Les Russes, avec 3 pommes de terre par jour, ils peuvent vivre. Ils ont vécu à l'époque du Goulag.
Mais là, on parle d'autre chose. On parle de
conditions économiques.
Il
ne
peut pas y avoir de dialogue quand il n'y a pas d'accord sur les faits.
Vous parlez des Russes, des Ukrainiens, comme s'ils étaient des Normands, des Bretons. Non, pas du tout.
Mais on ne parle pas de ça. On parlait juste de l'impact.
Les Ukrainiens sont des Ukrainiens.
On parlait de deux choses différentes.
Pardon, sur la menace nucléaire.
Les Russes sont plus durs à la douleur que les Occidentaux. Par ailleurs, la balance commerciale russe, rien qu'au mois d'août, ça a effacé.
Pendant ce face-à-face entre Volodymyr et
Zelensky, c'est fou que la balance.
On parle de fait.
C'est pour nous, on parle de balance. Quelqu'un qui habite Omsk, il s'en fout de la balance, il s'en fout de la bourse. Il a son petit jardin avec 4 pommes de terre et il peut vivre. Les Russes sont forts quand ils sont agressés. Hein. Napoléon l'a compris, depuis Chinggis Khan on a compris, Hitler a compris. Donc, moi, ce qui me... Je ne les connais pas très bien. Nous nous sommes rencontrés en 2001 pour l'inauguration d'un monument à Babi Yar. Il faut se souvenir à Babi Yar. Hein, 40 000 juifs massacrés en deux jours. Deux jours, il fallait les faire. C'est le père des bois, justement, décrit dans la Shoah par balle. Donc, c'est ça l'histoire. L'histoire ne se fait pas ici avec nos critères.
J'aimerais vous faire écouter.
Donc il faut cet extrait. C'est pour ça.
De Volodymyr Zelensky, encore une fois, pendant ce face-à-face entre Zelensky et Alain Delon sur les menaces à peine voilées concernant le nucléaire de Vladimir Poutine. Ça donne ça, écoutez.
Je ne crois pas que le monde va lui le permettre. Donc, nous parlons des grands pays européens et l'influence de l'Union européenne à la Russie, les États-Unis, les contacts de la Grande-Bretagne et l'influence sur la Russie.
Bonsoir, Général Clermont. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette fois, il faut prendre ces menaces de Vladimir Poutine au sérieux.
De toute façon, de fait, il faut prendre toujours les menaces de Vladimir Poutine au sérieux. La menace concernant les frappes nucléaires, ce n'est pas la première fois qu'il l'effectue. Je pense que celle-ci, ça ne sera pas la dernière non plus. Celle-ci, il faut le mettre dans le contexte de deux nouveautés qui ont été annoncées lors du discours de Poutine. C'était d'abord la mobilisation de 300 000 réservistes, et ensuite les référendums qui ont commencé déjà dans les territoires occupés par les Russes. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que la dissuasion nucléaire, elle est faite pour le dialogue stratégique. Si au moment où il y a des tensions entre les États qui sont des puissances nucléaires, il n'y a pas de dialogue, elle n'existe pas. Donc ce dialogue stratégique, il a commencé depuis le premier début de la guerre, ça fait partie de la façon dont les Russes ont opéré. C'est pas exceptionnel. Il y a eu, depuis 1945, à peu près une dizaine de cas dans lesquels il y a des tensions entre des États nucléaires avec des menaces d'usage de l'arme nucléaire. Vous vous en souvenez, la Corée, Cuba, y compris Dien Bien Phu d'ailleurs, l'Iran, l'Inde et le Pakistan, chaque fois, les États ont reculé, ont trouvé des solutions diplomatiques. Là, avec Poutine, il y a deux différences en réalité. La première différence, c'est qu'il a une doctrine un peu particulière, qui était celle de l'OTAN des années 50-60, où en raison de son infériorité conventionnelle, il a mis dans sa doctrine le fait qu'il répondrait à cette infériorité par l'arme nucléaire si jamais la Russie était menacée. Bon. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas fréquent dans les doctrines. Et le deuxième point, c'est la nature même du régime de Poutine, qui est quand même très différent de la nature des régimes qu'on a connus. Poutine, alors là, peut-être qu'il y a des spécialistes, certainement des spécialistes qui connaissent mieux le système russe, pas soviétique justement, le russe de Poutine, mais il est isolé, il décide très seul, il est entouré de gens qui sont... essentiellement des affidés. Il est non seulement un chef d'État, mais le chef des oligarques et le chef de la mafia russe. Et ça fait 20 ans que ça dure. Donc il y a une espèce de système politique, je pense, qu'on n'a jamais connu dans l'histoire, qui fait que la façon dont Poutine va raisonner, en particulier, rappelons un point qui est important, c'est l'audition de la directrice nationale du renseignement américain, Avril Haines, qui a été auditionnée devant le Congrès au mois de mai dernier. Hein, à l'époque, on parlait à nouveau de guerre nucléaire. La menace était prononcée, donc elle avait rappelé quand même qu'il n'y a que deux cas dans lesquels Poutine pourrait recourir à l'arme nucléaire. Premier cas, c'est si la Russie est en train, la Russie est défaite sur le terrain, et en fait le deuxième cas qui est lié au premier, c'est si Poutine sent qu'il y a un changement de régime du côté du Kremlin. Bon, donc,
en général, Vladimir Poutine parle de 300 000 réservistes, est-ce que ce chiffre peut être sous-estimé?
Alors, maintenant, on a eu le temps un peu d'analyser la situation sur cette question des 300 000. En réalité, tous ceux qui ont fait leur service militaire deviennent réservistes de fait. Il n'y a pas des réservistes volontaires. Donc, ça veut dire qu'en gros, il a une population de plusieurs millions de réservistes. Il faut qu'il en trouve 300 000. Il devait trouver ceux qui avaient un peu de fraîcheur opérationnelle. En réalité, il n'en a pas. La façon dont les réservistes vont être recrutés, c'est ceux qu'on trouve en premier seront mis dans des véhicules et seront amenés dans des camps dans lequel on va procéder à l'entraînement. Mais le rassemblement, la formation et l'envoi sur le front de 300 000 réservistes, ça me paraît extrêmement difficile à réaliser par la Russie, qui n'a pas assez d'hommes aujourd'hui pour tenir le terrain. Donc on ne voit pas comment ils enleveraient des hommes du terrain pour former des réservistes. En réalité, ils vont prendre des gens, ils vont les mettre en uniforme, ils vont leur apprendre à tirer au fusil, et rapidement, ils vont les envoyer au front, et ça va devenir de la chair à canon. C'est probablement ce qui va se passer avec les réservistes dans les prochaines semaines. avec une petite parenthèse importante quand même, j'en terminerai là, c'est que l'hiver approche et qu'effectivement les deux camps vont essayer d'accélérer le tempo des opérations, parce qu'en hiver les opérations continueront, mais à un rythme beaucoup plus ralenti, et ça sera une période dans laquelle on va assister à la régénération des forces. Dernier point, je pense que le fait qu'il ait évoqué les 300 000 réservistes, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore le dos au mur, hein, je pense que pour lui c'est une erreur stratégique, il va payer très cher cet effet de réservistes, mais il n'est pas le dos au mur, donc la menace nucléaire, il faut la mettre en perspective avec cette solution qu'il a, une solution qui est pour lui d'essayer de continuer d'équilibrer le rapport de force en sa faveur sur le terrain. Tant que la ligne de front ne sera pas stabilisée, il n'y aura pas de négociation.
Bon, général, le général Bruno Clermont, merci encore d'avoir réagi en direct dans Punchline. Marie Calter, que reste-t-il du James Bond russe que vous avez connu?
Écoutez, moi je crois que...
Vous parliez bien sûr de Vladimir Poutine.
La Russie, c'est un des pays les plus immenses du monde. Et c'est vrai, vous avez parlé, il y a des minorités, 73 ethnies, qui parlent des différentes langues. Ce ne sont pas tous les Russes. Mais c'est eux, c'est à eux qu'il faut parler. Moi, je pense, moi, chaque fois quand je vois ces maires, c'est toujours la même image. On a vu à Bagdad, on a vu au Cambodge, on a vu en Afghanistan, ces maires avec les mains levées au ciel parce qu'il y avait leur enfant qui était mort devant eux. C'est les mêmes images. Et moi, ça me bouleverse. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire contre ? Mobiliser les peuples. D'ailleurs, le pape est en train d'organiser une rencontre entre la société civile russe et ukrainienne. Comme il voulait aller sur place, on n'a pas voulu de lui. Alors il n'est pas allé dans la société civile. Moi, je suis persuadé, mais je peux me tromper, les Russes, c'est spécial. On peut leur dire tout si on leur dit qu'on les aime. C'est ce que j'ai fait avec Poutine. C'est pas mon copain. Je le connais depuis 30 ans. Il était content parce qu'il était James Bond russe.
Oui, mais il a répondu à votre tribune ou pas? Il a répondu à votre missive, à votre lettre?
Il m'a dit, venez. Alors moi, je lui ai dit, nous, on va venir. Donc la délégation, habillée. Vous savez, c'est l'habit qui fait le moine. Donc ils seront tous habillés. Voilà. Et j'ai dit, vous venez prier avec nous. Et alors, on va faire la même chose à Kiev. Il faut arrêter cela. Alors, comment, si les diplomates peuvent le faire, bravo. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas su le faire. Alors, continuer à armer des gens, à se faire tuer, à quoi bon? Combien de millions encore de gens vont mourir? Moi, je suis né dans la mort.
Votre message est passé. Merci beaucoup. Merci, Marie-Catherine. On est extrêmement en retard. Je suis désolé.
Je suis désolé.
Malheureusement.
Non, mais je sors ma colère grâce à vous.
J'ai senti.
Merci de m'avoir accueilli.
Vous avez extériorisé. Et on a bien reçu le message. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler d'une toute autre colère, celle d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Et dans la foulée, celle de Manuel Bompard, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Polémique. À tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, 17h passé de 31 minutes, protection des femmes, Manuel Bompard, minimise-t-il? On se pose la question juste après l'essentiel de l'info avec NFL.
En détention provisoire pour meurtre sur conjoint, Cédric Jubilard est sorti de cellule aujourd'hui pour être auditionné par un juge. Un juge qui dispose désormais d'une nouvelle expertise qui prouve que le téléphone de son ancienne épouse a borné juste à côté de leur domicile. Cédric Jubilard a toujours dit qu'elle était partie avec son téléphone. Le procès des attentats djihadistes de 2016 à Bruxelles est reporté de plusieurs semaines. En cause, le nouveau box des accusés réclamé par la Cour, qui ne pourra pas être livré le 10 octobre, date initialement prévue pour la composition du jury. Ce procès concerne notamment le djihadiste français Salah Abdeslam, déjà condamné dans l'Hexagone à la perpétuité. Washington annonce des mesures pour faciliter l'accès des Iraniens à Internet dans le pays. Les connexions sont toujours verrouillées par le régime avec le blocage de WhatsApp et Internet et Instagram notamment. Alors le département du Trésor américain annonce un assouplissement des restrictions de commerce avec l'Iran, une manière d'autoriser les entreprises à fournir davantage de services aux populations.
Yann Effele, toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, et Benjamin Haddad, qui est député Renaissance de Paris. Ces mots à présent, une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égal à un homme qui bat sa femme tous les jours. Propos tenu ce matin dans la matinale au micro de Laurence Ferrari par un certain Manuel Bompard.
J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui sont portées à son encontre. Ce sont des accusations. Bien évidemment, il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance.
Et après Cluzel, il a pondu un communiqué dans la foulée, effectivement, enfin, 3 heures après Manuel Bompard, parce qu'effectivement, ça a un petit peu, il y a eu beaucoup de critiques à droite comme à gauche. D'ailleurs, je n'ai jamais dit ni pensé qu'une gifle n'était pas grave. C'est un fait grave et inacceptable. Et je l'ai rappelé ce matin dans mon propos. Je rappelle seulement des principes fondamentaux en droit, la proportionnalité de la peine et l'individualisation des peines. Cette défense, cette position, surtout au sein de l'ANUPS, est-ce qu'elle est tenable?
Non, mais sur le fond, il a raison. C'est-à-dire que vous passez devant un tribunal, c'est pas pareil d'avoir donné une gifle, ce qui est, c'est pas le cautionner de le dire, que de frapper sa femme tous les jours. Évidemment, la justice est ainsi, il y a de la nuance. Mais ce qui fait réagir, c'est que le propre de la France insoumise, c'est de n'avoir aucune nuance. Donc nous sommes contents de découvrir qu'il y a de la nuance, mais tout ce discours autour des violences sexuelles et sexistes, là, comme selon l'expression consacrée, moi je trouve précisément que la communication est délétère parce qu'on confond tout. C'est-à-dire qu'un homme qui siffle une femme dans la rue, on peut juger ça vulgaire, mais néanmoins c'est pas une femme violée. Voilà. Et or depuis des mois, on alimente un discours de chasse aux sorcières où finalement tous ces comportements sont assimilés les uns aux autres. Alors évidemment, là, pour défendre un copain, tout d'un coup, on découvre ce qu'est une nuance. Et c'est en cela et que cela choque, que cela heurte et que cela fait réagir.
Geoffroy Lejeune.
Moi, je suis très heureux, moi. J'adore cette séquence.
Il boit du petit lait. Ça feuilletonne en plus.
Tout est parfait. Je suis au spectacle, il ne manque plus que le pop-corn. En réalité, je suis très heureux parce qu'ils sont en train de vivre ce qu'ils nous font vivre en permanence. Et ça fait du bien de le voir. Moi, j'ai beaucoup d'affrontements avec la France Insoumise sur le fond, évidemment.
Il me semble.
Et notamment, là, je sors, en fait, c'est pour ça qu'en ce moment particulièrement, j'en suis très heureux. Je sors de 2 après-midi, donc hier et avant-hier, au tribunal en cours d'appel, dans une affaire qui nous oppose à Valeurs Actuelles, à la députée Danielle Obono, qui nous accuse, souvenez-vous, d'ailleurs, j'étais venu en parler sur votre plateau à l'époque, d'avoir été raciste à son égard avec une fiction qui l'a plongé à l'époque de l'esclavage, etc. Je reviens pas sur le fond de l'affaire, chacun s'est fait déjà une opinion. Mais par contre, je connais leur méthode. Et je vois comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'en gros, ils décident de lancer des cabales, ils font ça en meute, ils organisent des raids, et quand vous êtes dans leur viseur, c'est pas du tout un moment agréable parce qu'ils sont très bien organisés sur internet, mais même en règle générale partout. Ils ont beaucoup de militants, etc., assez jeunes, assez motivés, mobilisés. Et au tribunal particulièrement cette semaine, ce que j'ai vécu, c'est les parties civiles étaient des amis ou des proches, des camarades de combat, disons, de la France insoumise, n'ont aucune limite dans l'injure, dans l'insulte, dans la manière. C'est protégé évidemment au tribunal, on peut dire n'importe quoi. Donc on s'est fait insulter, mais comme je n'ai jamais vécu ça. Et donc voir tout à coup qu'ils peuvent se prendre le retour de flamme de ce système qu'ils ont contribué à installer un peu de terreur, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve ça formidable. Évidemment, je suis d'accord avec Gabriel, parce que sur le fond, ce qu'il dit n'est pas renversant. Mais je suis trop heureux de voir qu'une déclaration attaquée par des gens, sortie de son contexte, donne lieu à un communiqué qui va passer un sale week-end à essayer de se débrouiller. Parce que en réalité, quand on les combat sur le fond politiquement, ils nous font vivre ça en permanence.
Sandrine Rousseau, voilà ce qu'elle a dit à nos confrères d'LCI, une gifle à sa conjointe. C'est un délit. Tous ces mots-là sont des mots qui minimisent ces actes de violence, est-elle désolée. Je rappelle qu'il y a 230 000 femmes qui subissent actuellement des violences conjugales. Benjamin Haddad, ça sent la scission, sans l'ANUPS. Vous aussi, vous buvez du petit lait ou pas?
Non. Moi, je ne bois pas du petit lait quand on parle de violence contre.
Sur un plan politique, j'entends.
Quand j'entends que Manuel Bompard nous parle de nuance, la France Insoumise qui parle de nuance, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. On a un mouvement qui jette la présomption d'innocence, qui est constamment dans l'injure, qui est constamment dans l'accusation, les théories du complot. Et là, aujourd'hui, on les voit en rang groupé pour défendre maintenant les violences contre les femmes. Violences, il faut quand même le préciser, qui ont été admises par l'intéressé Adrien Quatennens.
En écriture inclusive. Donc
tout ça est extrêmement choquant. Le comportement de Jean-Luc Mélenchon à l'égard d'un journaliste qui donne une petite tape comme ça d'une certaine façon pour parodier aussi une gifle, c'est extrêmement choquant. Et c'est une stratégie.
Pour vous, c'est un geste d'intimidation, effectivement, sur ce journaliste de quotidien.
Évidemment que c'est un geste d'intimidation. Mais d'ailleurs, il faut voir
toute la photo.
Mais il faut voir toute la séquence. Il faut voir toute la séquence. Il marche avec lui, il s'arrête, il se retourne vers lui, il s'approche comme ça, comme ce sort d'exhibier sa virilité. Il lui donne une.
Oui, une dimension physique, c'est vrai.
Il y a une dimension physique.
Et c'est pas nouveau.
Les intimidations.
On le voit, voilà, cette main posée sur Paul Gasnier.
Du complot de Jean-Luc Mélenchon quand il remet en cause la légitimité d'une élection, les polémiques permanentes. Il y a quelque chose de très trumpiste, hein, vous savez, dans le comportement de Jean-Luc Mélenchon, qui cherche aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon, à ce qu'on réagisse, à être constamment au cœur de l'actualité.
Vous avez longtemps vécu aux États-Unis,
J'ai longtemps vécu aux États-Unis, je l'ai vu. Donc il y a quelque chose de, effectivement, assez dangereux, d'ailleurs, je pense, pour la démocratie dans ce comportement.
Jean-Sébastien Ferjou.
Oui, non, mais il y a une stratégie d'intimidation physique chez Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il réfléchit ou qu'il y a son tempérament qu'il ne maîtrise pas toujours.
Mais là, c'est contre-productif, là, dans la séquence.
Et là, on pourrait très bien l'imaginer en train de dire la lutte contre les violences contre les femmes, c'est moi. Oui, non, mais si, parce que ça relève de ça, même s'il était plus dans l'ironie. Pour revenir d'ailleurs sur ce que je disais.
À la place, il a dit
je le soutiens totalement, parce que effectivement, quand on est confronté à la France insoumise, que ce soit dans les tribunaux ou sur les réseaux sociaux, ce sont des gens dont on voit très bien qu'ils ne s'inscrivent pas dans le débat démocratique, ils veulent faire taire leurs adversaires, qui ne traitent d'ailleurs pas comme des adversaires. Un adversaire, c'est celui que vous combattez. Ils les traitent comme des ennemis. Ils les traitent comme des gens, pour le coup, qu'ils veulent éliminer du champ médiatique ou du champ du débat politique. Et ça ne relève pas du champ de la démocratie. Maintenant, sur les propos de Manuel Bompard eux-mêmes, je crois que Gabriel a tout dit. De fait, Manuel Bompard, il ne s'agit évidemment pas, comme d'ailleurs lui-même ne le fait pas, de minimiser la violence que représente une gifle, mais un tribunal voit bien qu'il y a une différence. Moi, ce qui me perturbe dans cette affaire, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de femmes, parce que tout le temps qu'on passe sur ces polémiques et que Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise entretiennent en quelque sorte, en laissant durer le plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Adrien Quatennens, c'est lui qui, à l'Assemblée nationale, assumait qu'une gifle, c'était le premier pas vers les violences. Donc il l'a dit, qu'il assume la responsabilité politique de ses propos tenus, encore une fois, à l'Assemblée nationale. On ne peut pas parler à l'Assemblée nationale et ne pas assumer ensuite. Mais là où je vous disais que je trouve ça choquant, c'est qu'il y a énormément de victimes dans ce pays qui vont dans les commissariats pour essayer de porter plainte et on leur répond main courante. Alors je ne sais pas si Madame Quatennens, c'est à la limite, on s'en fiche, c'est une affaire privée. Le commissariat a essayé de la convaincre de ne pas porter plainte et à ramener les choses à une main courante, ou si elle-même voulait une seule main courante. Mais quand là, vous voyez que le parquet se saisit des faits, qu'il engage immédiatement une enquête parce que c'est médiatique et énormément de gens qui ont subi des violences plus graves ne sont pas entendus par la justice, je trouve que parfois il faut savoir arrêter, clore une polémique. C'est certainement valable pour nous, mais c'est vraiment valable pour la France insoumise.
Vous avez le sentiment, Gabriel Cluzel, que l'après Mélenchon, c'est encore tabou, ou tout ce qui se passe, toute cette séquence, ce feuilleton, si je puis dire, est en train de changer la donne?
Ce qui est assez compliqué, c'est que l'après Mélenchon, ça devait être Quatennens et exit Quatennens. Ce qui me fascine, c'est ce qui est en train de se passer. Je pense notamment à Sandrine Rousseau qui finalement arrive à s'imposer. On a beaucoup glosé sur ses déclarations extravagantes, mais finalement, à la fin, elle fait strike. Hein. Les uns après les autres, ça tombe.
Quatennens, Bayou.
Il y a une espèce, on le sent bien, de processus révolutionnaire dans ce parti. Ce qui est normal, hein, du coup, parce que c'est des sens révolutionnaires. C'est Danton qui criait à Robespierre sur sa charrette appartenant à la guillotine, tu seras le prochain. Bah, tous ces hommes qui ont essayé d'en faire des tonnes avec beaucoup d'hypocrisie, hein, parfois, parce que rappelons-le, il a fait son aveu, hein, Adrien Quatennens, en écriture inclusive, et ça me rappelle un peu l'affaire Baupin, Baupin qui se mettait du rouge à lèvres scrupuleusement à la journée de la femme. Il manquait plus que les barésies. Bon, il n'y a pas la condition d'une seule femme qui a été changé par toutes ces idioties, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, ils se font balayer. Il y a un certain nombre de femmes féministes radicales qui ont envie de prendre le pouvoir, mais elles aussi se font balayer parce qu'il en est ainsi des processus révolutionnaires. Donc, on les trouvera à un moment trop blanche, peut-être. Enfin, voilà, là, on attend de voir la suite.
Et après Mélenchon, c'est tabou ou pas? Où ça se dessine justement quand on voit qu'il y a peut-être une scission entre d'un côté Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, et de l'autre côté Léo Tain, Obono et consorts.
Oui, c'est tabou, oui, pour l'instant ils ont du mal à en parler parce que c'est quand même un parti qui a des instances.
Parce qu'il prend beaucoup de place, parce que.
Pardon ?
Parce qu'il a son caractère, parce qu'il prend beaucoup de place.
Il fait peur à tout le monde, surtout. Regardez comment ils se comportent quand ils sont interrogés sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'était en début de semaine, c'est quand même une scène extraordinaire. Je veux dire, on ne voit ça que dans des grandes dictatures, où il y a tout l'état-major de la France insoumise qui vient donner l'image d'un parti uni dans la tourmente. Mmh. Et puis au moment où il faut répondre à une question d'un journaliste un petit peu gênante, plus personne ne veut parler. C'est extraordinaire. Donc maintenant, on a compris. Enfin, moi, en vérité, on
le savait déjà. Tout le monde s'en fout de la patate chaude, effectivement.
Et bien sûr, mais en fait, c'est un parti totalitaire. Enfin, c'est un parti qui a un fonctionnement totalitaire. On peut faire d'ailleurs la liste ici. Les gens sont des gens qui ont quitté la France insoumise parce que désaccord ou tout à coup mise au banc ou alors fin de l'état de grâce, etc. Georges Kuzmanovic, il y a quelques années, qui n'avait pas eu la bonne place aux européennes, tac, dégagé. Thomas Guénolé, le politologue. Enfin, et en fait, à chaque fois, ils écrivent la même chose quand ils s'en vont à Andrea Cotarac, qui est maintenant au Rassemblement National. Ils disent tous exactement la même chose. Donc on sait que ça fonctionne comme ça. Je pense que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas s'encombrer ne serait-ce que d'un débat interne et que les instances. C'est toujours pareil, là, je suis d'accord avec le parallèle.
C'est pas comme ça dans tous les partis politiques ? Ça se passe pas comme ça, Renaissance ?
C'est incomparable. Au sein du parti Les Républicains, moi j'ai beaucoup suivi Les Républicains, ils ont des bureaux politiques où ils s'engueulent parfois. Après, il y a un chef, mais ils se disputent, ils sont capables de débattre, même parfois de se contredire, etc. À la France Insoumise, jamais. Moi, ce qui me fascine et ce que je trouve le plus terrifiant dans cette dimension révolutionnaire, c'est que la révolution est la cause suprême et donc tout peut être excusé au nom de ça. Donc ils tolèrent finalement les pires ignominies et ce qu'ils reprochent aux autres, ils le tolèrent en permanence pour eux. C'est pour ça qu'ils ont donné l'impression de vouloir un peu excuser Quatennens parce que c'est quand même un bon soldat, au nom de leur cause suprême. C'est vraiment le début du commencement du c'est comme ça qu'a fonctionné l'URSS pendant très longtemps. Et par ailleurs, sur la manière d'éliminer les gens de la part de Sandrine Rousseau, la vérité c'est qu'elle est encore pire que Jean-Luc Mélenchon. Il y a une phrase qui est attribuée à tort à Richelieu qui est « Donnez-moi 6 lignes écrites de la main du plus honnête homme et j'y trouverai un motif de condamnation à mort ». Elle fait exactement ça. C'est-à-dire qu'avec leurs idéaux, avec leur grande pureté, etc., et tous les principes qui sont en train d'imposer à notre société, on peut aujourd'hui bannir n'importe qui.
C'est terrible parce que je pense qu'à chaque prise de parole de Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau, je pense qu'effectivement tout ce petit monde à la nupe est en train de trembler. Jean-Sébastien.
Mais sur Jean-Luc Mélenchon, la difficulté pour la France insoumise et la NUPES, parce qu'il faut distinguer les deux, c'est que malgré tout, oui, pour parti, il fait peur, où il y a un gouvernement, parce que c'est pas un parti d'ailleurs, c'est un mouvement dont les structures sont gazeuses et ne sont jamais affichées, ce qui permet d'éliminer plus facilement les gens, parce qu'il n'y a même pas besoin de les déchoir d'un titre en particulier, mais il a quand même un charisme, une légitimité historique, entre guillemets, au sein de la gauche. Maintenant, la difficulté, c'est que ce que Jean-Luc Mélenchon parvient à faire, justement, par cette espèce de charisme, par son intelligence, ses capacités d'orateur, à savoir faire vivre ensemble des gens qui, en réalité, n'ont pas grand-chose en commun. Il y a à la France insoumise des gens qui étaient des républicains, qui le sont d'ailleurs probablement toujours, et il y a à côté de ça des gens qui sont clairement du côté des indigénistes. Ouria Boutelja, d'ailleurs, la porte-parole des indigénistes, s'était vantée de considérer que Jean-Luc Mélenchon était une prise de guerre. Il arrive à faire vivre ensemble aussi bien Daniel Obono que Clémentine Autain que Alexis Corbière, tous ces gens-là n'ont pas la même vision politique. Effectivement, s'il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon, ça devient très compliqué de faire tenir ce mécano-là, que ce soit uniquement au sein de la France insoumise ou que ce soit au sein de l'ANUPS. Mais pour le coup, il y a quand même des gens qui parfois ont déjà critiqué, Clémentine Autain notamment, elle eu le courage, on ne peut pas lui retirer ça, d'avoir dénoncé le fonctionnement très autoritaire de ce parti et quoi qu'il en soit, absolument pas démocratique.
Rapidement. Mais juste quel naufrage intellectuel et moral pour la gauche d'être aujourd'hui soumise à ce mouvement clanique, anti-républicain, anti-laïque, anti-capitaliste qu'est la France insoumise. On a des dirigeants de la France insoumise qui disent ouvertement qu'il faut sortir du capitalisme, qui se compromettent avec l'antisémitisme en faisant des résolutions qui accusent Israël d'apartheid, qui se comparent eux-mêmes d'ailleurs à Robespierre, alors avec à la fois énormément d'inculture historique et puis aussi beaucoup d'arrogance et d'orgueil dans la façon de le faire. Là, aujourd'hui, la gauche, il y avait quand même historiquement une gauche européenne, une gauche républicaine, laïque, il y avait le Parti socialiste qui aujourd'hui a décidé d'être le parti d'appoint minoritaire de cette coalition qui est dirigée de facto par Jean-Luc Mélenchon.
Allez, sans plus tarder, je vous propose à présent ce retour vers le présent. Il y a un an, les toxicomanes du Jardin d'Éole, dans le nord-est de la capitale, étaient délogés, vous en souvenez, pour être déplacés vers la Villette, bien sûr, et Aubervilliers. Quelle est la situation sur place un an après pour les riverains? Élément de réponse avec ce reportage signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner pour CNews.
C'est la nuit et le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence.
Depuis le départ des consommateurs de crack il y a un an, Françoise ose enfin revenir dans le jardin des Halles, où les animaux ont remplacé les toxicomanes, délogés de force. Mais à seulement 2 kilomètres plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas un gramme.
Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
C'est pour me protéger le minimum. Souvent, les gens ils sont très violents. On a déjà eu des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent.
Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
Benjamin Haddad, on est condamné à subir la situation.
Non, le crack, c'est vraiment un fléau. C'est un fléau déjà pour les addicts. Hein. Vous savez que c'est extrêmement difficile d'en sortir.
Et ça aux États-Unis, ils font comment ?
Complètement l'organisme. Bon, aux États-Unis, ça a aussi été un échec hein, dans beaucoup d'endroits. Mais aujourd'hui, on voit une situation à Paris. Et puis, c'est aussi une inquiétude immense, et c'est ce qu'on voit dans votre reportage, pour les riverains. Quand on crée des centres de crack, il y a eu des débats dans ma circonscription, par exemple, récemment sur ce sujet. Évidemment, normalement, des gens qui ont des familles, qui ont l'habitude de sortir, d'aller dans les parcs, ils ont peur de voir venir des dealers. Ça crée un appel d'air, ça crée de l'insécurité.
Qu'on les a délogés, qu'on a déplacé le camp. Et au final, alors, tout ce petit monde revient vers cette ancienne théâtre.
Il faut qu'on trouve des solutions. Le ministre de l'Intérieur a demandé au nouveau préfet de police de Paris de trouver des solutions. Non, mais récemment, là, justement, c'est une urgence qui a été... Voilà,
il a donné, alors on lui laisse un an.
Moi, je serais favorable à ce qu'on réfléchisse, par exemple, à l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire à demander effectivement aux addicts de se soigner, peut-être de le faire dans des centres qui pourraient être à l'extérieur des centres urbains, à la fois pour la qualité de vie des résidents, mais aussi pour les patients, pour les malades. C'est-à-dire pour, si il y a injonction, ça veut dire qu'effectivement, on pourrait à ce moment-là l'exiger. Et à ce moment-là, faire en sorte qu'ils puissent se soigner à l'abri aussi du deal, à l'abri des tentations. Voilà, c'est vraiment un fléau moderne dans les zones urbaines auxquelles il faut répondre aujourd'hui de toute urgence.
On a écrit le statu quo, mais j'aurais pu plutôt écrire la situation en pire, Gabriel.
Non, mais le problème, c'est que le crack
ça fait
à Paris.
C'est une traînée de poudre, si je puis dire.
On ne connaît que deux méthodes. C'est celle de la patate chaude et de la passadelle. Et puis une troisième, c'est mettre tout ça sous le tapis. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas parce que les mécontentements suivent les déplacements. Donc ce n'est évidemment pas une solution. Alors le drame du crack, nous sommes d'accord, c'est terrible, c'est affreux. Mais je crois que le problème, c'est que la France a une tentation démiurgique de soigner le monde entier et se sent responsable de tout un tas de gens qui, en réalité, sont étrangers et qui devraient, dans le cadre du trafic, n'est-ce pas, et qui devraient repartir chez eux parce que nous devrions reconnaître humblement que nous n'arrivons pas à résoudre le problème. Donc, quand vous êtes dans votre famille et que vous n'arrivez pas à résoudre le problème de vos voisins qui sont venus s'installer dans votre salon, eh bien, vous dites, écoutez, je renonce, il faut qu'ils retournent chez eux parce que ça nuit à mes enfants. Eh bien, ce qui est audible à l'échelon d'une famille, c'est même simplement le simple bon sens, semble-t-il, est devenu inaudible à l'échelon d'un gouvernement. Donc, on a un gouvernement qui a réussi à mettre 67 millions de personnes sous clé dans le cadre du Covid, qui a eu des intelligences artificielles qui déploient des trésors d'ingéniosité pour repérer les piscines qui ne sont pas déclarées, enfin, mais qui, pour des situations comme cela, est impuissant. C'est extrêmement troublant. Les gens qui habitent dans ces quartiers se sentent complètement abandonnés. Ils en sont prisonniers parce qu'une fois qu'on a acheté un appartement et que cette situation s'installe, la cote immobilière. En revanche, les traites sont toujours là. Donc c'est proprement insupportable. Et vous l'avez dit, un an après, toujours rien.
Qui peut siffler la fin de la récréation, si je puis dire?
Je crois qu'il y a clairement un défaut de volonté politique. Déjà, il y a un jeu d'hypocrisie monstrueux entre la préfecture de police de Paris et la mairie de Paris qui se renvoie effectivement la patate chaude. Mais il y a quand même le gouvernement. Enfin, effectivement, on peut décider, d'autant que le trafic de crack, c'est pas le trafic de cannabis, ça n'est pas le trafic de cocaïne. Il n'y a pas beaucoup de dealers, il n'y a pas tant de points de vente que ça sur le crack. Et le crack, c'est vraiment une drogue, c'est pas une drogue récréative. Une fois que vous avez pris du crack une fois, vous devenez extrêmement vite addict. Donc il y a un défaut de volonté politique, ne serait-ce que sur le fait de gérer, si on arrêtait vraiment, ce sont quelques familles qui sont identifiées, le trafic de crack. C'est pas, pour le coup, comme je vous disais, un problème qui est
infiniment plus difficile à résoudre sur d'autres trafics de drogue. Mais après, il y a effectivement une dimension santé publique incontestable. Et oui, je crois qu'il faudra en arriver à une injonction thérapeutique, à sortir les gens. Et la situation se dégrade. Les bureaux d'Atlantico, ils sont sur la place de la Bastille. Je peux vous dire qu'autour du port de l'Arsenal, c'est devenu n'importe quoi. Alors que précisément, il y a justement des familles, des parcs, des enfants qui sont là. Et oui, ça devient infréquentable. Ça devient infréquentable. Donc c'est pas juste se lamenter sur le sort. Enfin, c'est pas juste de l'égoïsme. Déjà, si tout citoyen a le droit de vivre en sécurité chez lui, mais quoi qu'il en soit, ça n'est de toute façon pas respectueux non plus des gens qui sont eux-mêmes dans ces situations de crack ou les autres migrants qui sont autour.
Merci à Benjamin Haddad d'être venu nous voir à ce soir dans Punchline. Punchline qui revient dans les 5 petites minutes avec cette note confidentielle qui, vous allez le voir, met en lumière l'offensive islamiste à l'école. La réponse de Pape Ndiaye, c'est dans Punchline. A tout de suite. 17h passé de 59 minutes, merci encore de votre fidélité à Punchline. Voici le sommaire de cette deuxième partie d'émission. Cette note confidentielle qui met en lumière l'offensive islamiste à l'école. Une mobilisation d'après les services de l'État de cette sphère sur les réseaux sociaux avec pour cible la laïcité. Quelle est la réponse de Pape Ndiaye, le tout nouveau ministre de l'Éducation qui était en déplacement, vous voyez, au Havre cet après-midi. Le gouvernement a-t-il un plan, oui ou non? On en parle dans un instant. La France insoumise sur la défensive. Il faut dire que le soutien, les mots de Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire Quatennens s'embarrassent même en interne. Le leader LFI a posé sa main hier sur un journaliste, ce qui a donné lieu à une toute nouvelle polémique. Vous entendrez dans un instant Manuel Bompard, invité de Laurence Ferrari, c'était ce matin sur CNews. Et puis Dieu, la famille, mais aussi la patrie, voilà des semaines qu'elle fait sensation avec cette devise en Italie qui est Giorgia Meloni, à 45 ans, celle qui se présente comme anti-système et conservatrice, pourrait devenir dimanche la première femme présidente du Conseil italien. Le débat dans un instant, juste après l'info, à 18h passé de 1 minute, avec Yann Effeleu. Yann.
Les autorités ukrainiennes annoncent avoir exhumé 436 cadavres. Ils étaient enterrés dans une forêt près de la ville d'Izium, un territoire repris aux Russes. La plupart des corps présentent des signes de mort violente et 30 d'entre eux témoignent même d'actes de torture. Hasard du calendrier, l'ONU affirme aujourd'hui que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine. L'Ukraine, où les référendums d'annexion par la Russie, largement condamnés par la communauté internationale, se tiennent en ce moment et jusqu'à mardi. Des scrutins qualifiés de simulacres par Kiev et les Occidentaux dans les régions contrôlées par Moscou. Ce vote en zone de guerre est une escalade de plus dans la guerre en Ukraine. En France, le gouvernement envisage d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. C'est le journal Les Échos qui le révèle. Il pourrait passer d'environ 10,30 euros actuellement à plus de 11 euros. La dernière hausse date de fin 2020. La reprise des contaminations au Covid s'accélère. Hier, 38 000 cas ont été signalés. L'épidémie était retombée à un niveau particulièrement bas fin août, mais ces dernières semaines, la hausse est continue. Les conséquences pour l'hôpital, elles, sont encore difficiles à prévoir, selon les experts.
Yann Effeleu pour le rappel des titres en plateau avec Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, et vient de nous rejoindre, bonsoir Karim Zeribi, consultant CNews. On commence avec ce face-à-face, on vous en a parlé en première partie d'émission, entre Volodymyr Zelensky et un certain Alain Delon. Ça donne ça.
Je pense qu'il a ses raisons, c'est l'ambition, c'est l'irrespect. Il pense sans doute que nous ne sommes pas une nation à part, que nous ne sommes pas des gens différents. Il pense que nous faisons partie de son monde. Il considère, ou peut-être il a envie, le retour de l'Union soviétique. Il considère, en tout cas de son point de vue, c'est juste et que tous ceux qui l'empêchent sur ce chemin, ce n'est que de la chair à canon. Il poursuit son objectif, parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il sait parfaitement combien de personnes périssent tous les jours. Il connaît tout jusqu'au moindre détail, mais ça fait partie de son plan. C'est une approche colonialiste à l'égard de notre pays et c'est tout.
Oui, mais ce qui est dramatique, c'est ce que je pense, c'est pas forcément la vérité, c'est que c'est le songe d'un homme, c'est pas d'un pays ou d'une nation, c'est le rêve d'un seul homme. Vous savez ça quand même.
Il est très important que des gens célèbres s'engagent, a dit Volodymyr Zelensky à Alain Delon. Karim Zeribi, est-ce que ce type d'échange vous surprend ?
Oui, je dois être honnête, je trouve un peu surréaliste dans le contexte ce type d'échange. Donc bon, je ne sais plus si c'est deux acteurs qui sont face à face, donc ou si c'est un président d'un État qui cherche à se mettre en scène en permanence et presque à n'importe quel prix, qui fasse le tour des parlements, ça on le comprenait tout à fait, qui voit ses homologues, qui sensibilise les dirigeants de la planète, ok, parfaitement, c'est normal, il a un peuple qui coule sous les attaques russes, mais là je comprends pas bien je dirais la mise en scène, surtout quelle finalité, quoi, quel impact, Alain Delon, avec tout le respect qu'on a pour lui, je sais pas comment il peut être influent dans le contexte.
Ça participe peut-être à la stratégie de communication qu'il a instaurée depuis le début. Hein.
Certes, mais cette stratégie
de communication... On se souvient des photos qui avaient fait beaucoup parler avec sa femme, notamment.
Elle peut avoir des aspects positifs et des aspects discutables. La mise en scène permanente, ça peut être discutable.
Effectivement, ça paraît un peu lunaire, mais c'est très clairement la stratégie qu'a choisi Volodymyr Zelensky depuis le début de ce conflit, de prendre les opinions occidentales à témoin, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Alors peut-être que vu d'Ukraine, il mesure plus ou moins bien ce qui va avoir pesé réellement sur les opinions, parce que je ne sais pas si Alain Delon sur TV5 Monde, ça fait vraiment bouger les lignes de l'opinion française, quoi qu'il en soit, mais on peut comprendre le fait qu'il est rentré dans l'histoire quand même au moment où il a réussi, il avait des taux de popularité qui étaient relativement faibles avant le déclenchement du conflit en Ukraine, et puis notamment avec sa fameuse phrase « je n'ai pas besoin d'un taxi pour qu'on m'exfiltre, j'ai besoin d'armes et que vous nous souteniez sur place », il a fait la preuve de son caractère et de son tempérament. Maintenant, sur ce que disait Alain Delon lui-même, parce que là on s'intéresse à Volodymyr Zelensky, quand il dit « c'est un seul homme », non, ça n'est pas un seul homme, la vision déployer l'invasion de la guerre en Ukraine, enfin de l'Ukraine, pardon, ça n'est pas que le caprice de Vladimir Poutine. Ça correspond à une pensée qui est assez largement installée en Russie. On l'entend expliquer, argumenter à longueur de journée sur la télé d'État russe par des gens qui disent que l'Ukraine n'a jamais existé historiquement. Enfin bref, qui emploient tous les arguments possibles et imaginables pour nier non pas seulement le droit de l'Ukraine à exister, mais l'existence même de l'Ukraine. Donc non, ça n'est pas que Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, juste d'un mot, les manifestations qu'on voit ces jours-ci, ce ne sont pas des manifestations contre la guerre. Hein. Ce sont des manifestations de Russes que ça ne dérangeait pas que le conflit existe aussi longtemps qu'ils n'avaient pas besoin d'aller combattre eux-mêmes. Ce sont des manifestations anti-mobilisation. Il y a une grande différence avec les manifestations contre la guerre.
Moi, c'est pour ça que je parlais de manichéisme tout à l'heure. J'ai un peu peur. Enfin, quand j'entends en effet Alain Delon qui est engagé à corps perdu dans ce conflit et qui dit des choses, en effet, je suis d'accord, qui ne peuvent pas être vraies. En fait, c'est ça qui est un peu gênant dans les réactions occidentales en général et moi française en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont devenus spécialistes de l'Ukraine et de la Russie en quelques jours, qui se sont fait une opinion très rapidement et qui donc finissent par dire c'est un seul homme fou à la tête d'un État et en réalité les Russes sont de notre côté. Marie Kelter le disait quasiment tout à l'heure également. Ça ne peut pas être vrai forcément. Une opinion est partagée sur ce genre de sujet. Et à force de ne pas le voir, tout à l'heure, le Benjamin Haddad, en plateau, expliquait que la paix ne peut... On parlait de paix et de comment...
Député Renaissance.
Ouais. Député Renaissance expliquait, et il a raison, que la paix ne peut pas se faire dans la soumission à l'agresseur. Je suis d'accord avec ça. Et malheureusement, la paix ne se fera probablement pas non plus dans la soumission de l'agresseur. Et j'ai tendance à penser, moi, que nous, en jouant ce jeu... Alors, Zelensky a ses raisons, je lui ferai pas la leçon. Moi, je sais pas comment ça se passerait si j'étais le chef d'un État en guerre, d'un pays en guerre. Mais nous, en jouant ce jeu et en mobilisant justement nos opinions avec ce manichéisme permanent, on a finalement préparé les esprits à ce qu'il faille que Poutine plie un genou, soit à terre et presque même humilié parce que en fait il y a une forme de volonté revancharde, etc., qui a priori n'arrivera pas. D'ailleurs, c'est jamais comme ça qu'on sort d'un conflit. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'est-ce qu'on espère maintenant de ce qui va se passer.
Et Gabriel, je sais quelle est votre attitude. Voilà ce qu'a dit Volodymyr Zelensky à l'égard de cette guerre. Je suis très heureux que vous souteniez l'Ukraine et les Ukrainiens. C'est très important pour nous lorsque des gens célèbres comme vous, Alain Delon, ils peuvent réellement aider car la parole est une arme et parfois frappe plus fort qu'une arme réelle sur un champ de bataille.
Alors, moi j'aime beaucoup Alain Delon, mais de fait ces images me dérangent un peu. Je suis pas sûre que Zelensky, je comprends que ce soit une stratégie et elle a une forme de logique, mais je suis pas sûre qu'il n'en sorte pas un peu abîmé. Déjà parce qu'il va...
Parce qu'il pense aux yeux des Ukrainiens.
Non mais il a besoin des opinions occidentales. Et donc c'est quand même ces opinions occidentales qu'il cherche à agréger en faisant le tour des parlements. Bon, déjà il intervient beaucoup et trop de paroles tue la parole. C'est-à-dire quand il va Sciences Po, etc., on se dit on va finir par le voir dans un conseil municipal, la salle polyvalente de Bricontrobert, vous voyez. Et je pense que c'est pas bon, parce qu'il faut garder, quand on est un personnage comme ça, il faut que la parole soit rare et précieuse. Et puis, il faut pas oublier que nous sommes dans un contexte où les parties des peuples est très très méfiante vis-à-vis des élites. Et les élites, c'est aussi les people, entre guillemets. C'est-à-dire, et ils ont le sentiment qu'on les force à penser quelque chose. Et finalement, agrégé autour de lui des stars. Est-ce que c'est payant? Je n'en suis pas certaine. On se dit, est-ce que la prochaine, ce sera Greta Thunberg? Il n'est pas sûr que ce soit une bonne chose. Parce que ça peut nourrir la défiance au lieu de la vaincre. Voilà. Mais après, c'est une question stratégique qui, sans doute, lui appartient.
Alors, on en vient à présent à cette note confidentielle qui révèle une offensive islamiste qui rappelle l'affaire Paty. Note des services de l'État datée du 27 août qui évoque en détail une mobilisation de la sphère islamiste sur les réseaux sociaux ciblant la laïcité à l'école. Et forcément, Élodie Huchard, depuis Le Havre, la réaction du ministre était très attendue aujourd'hui.
Le ministre de l'Éducation nationale était en visite au Havre ce vendredi aux côtés de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Plusieurs objectifs à cette visite. D'abord, dans la matinée, il s'est rendu à Caen, là où une professeure avait été violemment agressée la semaine dernière, évidemment pour témoigner son soutien à la communauté éducative. Et puis évidemment, Pape Ndiaye est revenu aussi sur ces notes des services de l'État qui alertent sur des atteintes à la laïcité, notamment sur les réseaux sociaux où on appelle par exemple à porter le voile ou bien encore à prier à l'école. Écoutez le ministre de l'Éducation. Était au micro de Florian Paume.
Nous sommes attentifs à toutes les manifestations, à tous les signalements qui peuvent être faits, soit sur les réseaux sociaux, soit à l'intérieur des écoles et des établissements scolaires concernant les atteintes à la laïcité. J'ai annoncé que nous publierons chaque mois des données à propos des signalements opérés par les établissements scolaires, s'il y a lieu. Nous interviendrons. Pour l'instant, nous n'avons pas de données clairement établies à propos de la rentrée, mais nous surveillons la situation avec attention.
Un ministre donc qui, pour l'instant, se montre prudent. Il préfère avoir des statistiques et rappelle que l'éducation nationale a déjà un certain nombre d'outils pour faire face à ces menaces contre la laïcité. Mais il le sait aussi, Pape Ndiaye, c'est un sujet extrêmement sensible. On voit de plus en plus de professeurs qui ont du mal à faire appliquer la laïcité dans leurs écoles. Il va falloir voir maintenant, dans les prochaines semaines, si à l'aune de ces statistiques, le ministère prend de nouvelles mesures.
Jean-Sébastien Ferjou, nous sommes attentifs. Répète à l'envi le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il a pris la mesure du problème?
Mais je ne sais pas, ça me rappelle un peu son intervention quand il y avait eu la note sur la progression des tenues traditionnelles, qui est un autre mot pour dire tenue d'inspiration religieuse, mais on voit bien qu'il y a une offensive qui tente à ruser avec les règles du système. Il y a la question du principe et puis il y a la question du nombre. Effectivement, il est utile que le ministère sache faire la part des choses sur la situation. Mais enfin, on a l'impression que Pape Ndiaye, il découvre la lune. Enfin, pardon, je veux bien qu'on soit plus précis et qu'on fasse la mesure, qu'on vérifie vraiment dans quelle proportion le phénomène. Mais enfin, c'est présent. Il ne peut pas lui échapper qu'il y a eu Samuel Paty. Il ne peut pas lui échapper non plus qu'il y a eu un certain nombre d'incidents dans le pays d'élèves qui ont refusé les commémorations à la mémoire de Samuel Paty. Il ne peut pas lui échapper le fait divers qu'on commentait il y a deux ou trois jours dans un lycée parisien. Avec ou un collège, un grand frère qui vient pour en menaçant la professeure qui avait demandé qu'une jeune fille retire son foulard dans le cadre d'une sortie scolaire. Donc qu'il ne voit pas tout ça, qu'il ne comprenne même pas que politiquement, dans l'expression de son message, ça paraît mais enfin un déni de réalité. Ça me laisse perplexe. Et je pense que, comme M. Ndiaye est tout sauf un imbécile, c'est parce que précisément, il s'adresse à quelqu'un d'autre. Sa fibre profonde.
Vous me dites qu'il donne
des
signes à la gauche.
Il a vécu aux États-Unis. De s'inscrire dans un modèle intellectuel, idéologique, qui est plutôt un modèle, justement, qui tend vers le multiculturalisme. Et vous avez vu sa déclaration, ces derniers jours, dans une université américaine, justement, dans laquelle il disait que c'était très difficile d'aborder les questions raciales en France à cause de l'extrême droite. Oui, il y a certainement une pression de l'extrême droite, mais il ne me semble pas me souvenir que ce soit l'extrême droite qui ait fait pression pour que le Maurras soit retiré de la Constitution. Donc en plus, il n'a pas l'air vraiment de maîtriser les codes politiques français.
Nous sommes attentifs, a dit le ministre de l'Éducation, Gabriel Cluzel. Est-ce que vous êtes rassuré?
Déjà, je note qu'il il ne nomme pas, contrairement à votre bandeau, islamisme à l'école, lui ne nomme rien. Il parle d'atteinte à la laïcité. Atteinte qui atteint à la laïcité? Et c'est un peu comme la loi séparatisme. On sait très bien que ce n'est pas une question de séparatisme, parce que si à la limite les islamistes voulaient rester séparés, ce serait un moindre mal. Le problème, c'est qu'en réalité, ils veulent nous faire vivre comme eux et prendre le dessus. Donc, toutes ces espèces de périphrases, cette pudeur à dire les choses montrent qu'en réalité, on n'agira pas. Et de fait, avoir dit à une tribune à l'étranger, en plus, c'est toujours très dérangeant de voir son pays mis en cause à l'étranger par un ministre journalistes français, dire que finalement le racisme suscité par l'extrême droite bloquait tout, c'est dramatique parce qu'on sait très bien que la lutte contre l'islamisme, et notamment chez les jeunes, est complètement paralysée par l'accusation de racisme. C'est-à-dire que si vous dites que vous voulez faire appliquer la loi, par exemple, en matière de voile islamique, c'est que vous êtes islamophobe et donc vous êtes raciste. Ça n'a absolument rien à voir parce qu'évidemment, l'islam, ce n'est pas une race, mais peu importe. Donc, il apporte de l'eau au moulin du mal qu'il est censé combattre. Moi, je crois que c'est comme Dupond-Moretti, c'est vraiment une erreur de casting. Pour moi, c'est vrai, la double face de d'une erreur profonde de ce.
À moins que ce ne soit la vérité du casting macronien, justement.
Oui,
peut-être.
Oui, parce
une erreur de notre point de vue,
non, continue,
mais révélatrice de la vérité du macronisme.
Je partage votre avis. Je voulais juste finir parce que c'est intéressant. C'est vrai qu'on dit souvent, oui, Emmanuel Macron, c'est en même temps droite et gauche. Je veux dire, le seul signal qu'il envoie à la droite, c'est la retraite à 65 ans, ce qui est quand même assez triste d'ailleurs, parce que si la droite a plus que ça à vendre, c'est affreux. Mais pour le reste, il est de gauche. Regardons son ministre de la Justice, regardons son ministre de l'Éducation. Il va nous faire passer l'euthanasie. Donc je crois qu'il faut arrêter, éclaircir les choses, il n'y a pas deux en même temps.
Quand Geoffroy Lejeune, il dit qu'il attend une étude plus poussée, qu'il attend surtout des chiffres pour se rendre compte véritablement du phénomène, est-ce que c'est une manière de gagner du temps ou c'est juste qu'on n'a pas de solution ? On n'a pas de plan.
Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, peut-être qu'il veut gagner du temps et peut-être qu'il n'a pas de solution. Mais je pense surtout qu'en fait, c'est la réaction, vous savez, d'hébétude de l'idéologue qui découvre un réel qui ne va pas dans le sens de son idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, on a été très vigilants, je dis nous, c'est la droite, les médias de droite, les hommes politiques de droite, quand sa nomination est intervenue, beaucoup ont dit « Ah, c'est un idéologue woke, regardez, il a écrit ça, ça, ça et ça dans son passé ». Et ça nous a même été d'ailleurs reproché, donc il a fallu attendre de voir ses premiers pas, etc. Là, on a enfin la première preuve du fait que, en effet, Pap Ndiaye est un idéologue woke, en tout cas un aficionado des thèses qui sont développées aux États-Unis, où il a en effet été se précipiter pour expliquer qu'on avait un problème avec le fait de parler des races en France. Et en réalité, ce qui se passe, la note, c'est le réel brut. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y a deux catégories d'hommes politiques. Il y a ceux qui veulent bien le considérer, après on diverge peut-être sur les solutions, puis il y a ceux qui continuent à ne pas vouloir le voir. Et là, en l'occurrence, en fait, vraiment, c'est celui qui ne veut pas le voir parce que ça va dans le sens inverse de ce qu'il a décidé et de ce qu'il pense et de ce qu'il professe. C'est donc extrêmement gênant. Je suis d'accord avec Gabriel. Maintenant, on n'a plus besoin de beaucoup d'autres symboles pour comprendre que sur les sujets essentiels pour l'avenir d'une nation, Emmanuel Macron a fait des choix extrêmement clairs. Et en l'occurrence, celui de Pap Ndiaye, c'est peut-être le casting parfait pour aggraver tous les maux que l'école connaissait. Donc, faites-moi confiance, sur le sujet de la progression de l'islamisme à l'école, il ne faut rien attendre de lui.
C'est une mode qui prend de l'ampleur, surtout depuis qu'il l'est diffusée sur les réseaux sociaux, le port de vêtements religieux à l'école. Les chefs d'établissement alertent aujourd'hui Augustin Donadieu.
Elle se compte par dizaines sur les réseaux sociaux. Ces vidéos postées sur Twitter et la plateforme TikTok en particulier deviennent rapidement virales et font le tour des cours de récréation. Dans la plupart des vidéos, les étudiantes incitent au port de la tenue islamique en se mettant directement en scène dans les établissements scolaires avec une orthographe approximative. Va dire au boss qu'on a repris la zone. Des vidéos d'incitation donc qui vont même jusqu'à expliquer comment tromper l'éducation nationale. Comme celle-ci, vue par près de 300 000 jeunes internautes.
Celle-ci est super pratique pour les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est une abaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes.
Des vidéos qui n'ont pas échappé au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce dernier parle de comptes gravitant autour de la mouvance islamiste qui remettent en cause le principe de laïcité à l'école dans le but de déstabiliser l'institution scolaire. Mais bon, il faut
que je fasse comme si derrière... Karim Zeribi, c'est anecdotique ou c'est symbolique ?
On ne sait pas si c'est anecdotique ou si c'est et on ne sait pas mesurer le phénomène. Donc que le ministre veuille le mesurer, je peux le comprendre. Effectivement, il faut savoir de quoi on parle. Mais de l'autre côté, je trouve que sa réponse est quand même assez faible. Elle manque de fermeté. On peut demander à ce que le phénomène soit mesuré réellement, avec précision, et l'analyser. Mais on doit concomitamment rappeler les principes qui ne seront pas négociables avec ceux qui veulent porter des tenues religieuses ou faire entrer la religion au sein de l'école républicaine et laïque. Et là, je trouve que sur ce deuxième aspect, donc, il est assez faiblard, notre ministre de l'Éducation nationale, pour pas dire un peu mou du genou. Donc, je trouve
il est faiblard parce qu'il n'y croit pas ?
Et je ne sais pas
c'est si idéologique.
Je ne crois pas, je ne veux pas parler à sa place, ouais. Mon cher Patrice. Mmh. Donc, et on peut être en doute sur effectivement sa conception républicaine, vu que lorsqu'il va aux États-Unis, il donne le sentiment de prôner plutôt le modèle anglo-saxon. Mmh. Donc, or, le modèle républicain, ce n'est pas le modèle anglo-saxon. On ne reconnaît pas les communautés. Il y a une communauté nationale de, qui on ne définit pas les citoyennes et les citoyens par leurs origines ou leur appartenance à une religion en République. Donc, on reconnaît des citoyennes et des citoyens. Et à l'école, je pense qu'il faut être très fait sur nos principes, parce que ça part de là, la formation des citoyens. Et donc, je ne comprends pas que concomitamment à ce besoin de mesures, qu'on peut comprendre, parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus s'alarmer si on a quelques cas ici et là. Il faut savoir de quoi on parle. Mais concomitamment, rien n'est interdit de rappeler avec une grande fermeté nos principes et de dire que ces derniers ne sont pas négociables. En soutenant les enseignants,
on s'alarme à partir de combien de cas ?
En soutenant les enseignants, en mettant en place des dispositifs de réactivité très clairs et très fermes. Et ça, il ne le fait pas. Et là, il manque quelque chose pour moi.
Et peut-être aussi, en sachant éliminer de l'éducation nationale les gens qui sont eux-mêmes porteurs d'une idéologie plutôt favorable à la progression de l'islamisme. Pas parce qu'ils sont islamistes eux-mêmes, mais parce qu'ils considèrent justement, comme le disait Gabriel, que toute opposition à l'islamisme relèverait du racisme ou du refus des étrangers. Mais ça, ça existe, d'autant qu'il y a eu une vraie infiltration dans un certain nombre d'inspections d'académie par des gens, justement, qui sont proches des frères musulmans et qui sont porteurs de cette idée-là. Il faut absolument que la République soit capable de se protéger, de se défendre contre ses ennemis de l'intérieur, parce que les ennemis de l'extérieur, on peut tous tenir des discours dessus, mais cette réalité-là, elle existe. N'oubliez pas aussi qu'un certain nombre de professeurs n'osent pas, justement, se montrer trop ferme sur les questions de laïcité parce qu'ils savent que dans la salle des profs, c'est pas le cas dans tous les établissements évidemment, mais d'autres vont le leur reprocher, à commencer par les syndicats, et les syndicats bien souvent sont ceux qui tiennent les clés d'évolution toutes les carrières, parce que c'est ça aussi le ministère de l'éducation nationale, c'est un ministère qui est co-géré par les syndicats. Donc si vous êtes juste un prof et que vous êtes opposé à l'idéologie dominante de la majorité, ou des syndicats en tout cas, des syndicats majoritaires, votre carrière est bloquée. Le vrai courage politique, ça serait aussi de mettre un terme à cette co-gestion du ministère de
l'éducation nationale. Gabriel Cluzel, est-ce que l'école a les moyens de se défendre aujourd'hui?
Ça semble compliqué, de fait, pour les raisons qu'a expliqué Geoffroy tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme Pape Ndiaye, un certain nombre de profs ont un logiciel qui bug. Ou comme l'a dit aussi Jean-Sébastien. C'est-à-dire qu'ils sont de gauche, avec beaucoup d'idéal et de bienveillance, voire de complaisance à l'endroit de ces signaux qui sont, pour certains, clairement islamistes. Et donc, ils voient bien quand même que ça pose un problème, mais ils n'ont pas la force intérieure pour réagir. Et par ailleurs, ils savent qu'ils ne seront pas soutenus, même quand ils ont envie de réagir. Donc, le plus simple, c'est évidemment de regarder ailleurs. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas arrivé cette année, il y a 6 mois ou il y a 2 ans. Ça dure depuis extrêmement longtemps. Je me souviens, il y a 10 ans, on me parlait d'un grand lycée du centre-ville de Strasbourg, pas de la banlieue, où il y avait un jeu de chat à la souris permanent entre les filles voilées, les profs. Pour la photo de classe, hop, on remettait le voile rapidement. Un prof de physique n'arrivait pas à obtenir qu'un voile qui pouvait être dangereux pour des expériences de physique soit mis de côté. Enfin, ces histoires-là prospèrent depuis des dizaines d'années. Ce que l'on pourrait convenir de dire, par exemple, c'est que quand il n'y a qu'un cas dans une classe, quand il y a un seul enfant, c'est vrai de toutes les provocations d'ailleurs, il est tout seul, il ne provoque pas longtemps. En revanche, quand c'est un groupe constitué, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, il prend le dessus. Ça tombe sous le sens. À l'échelon du pays, on pourrait dire que, puisqu'on ne maîtrise pas le flux et qu'on sait que c'est une conséquence de l'immigration, nous n'arrivons plus à gérer les conséquences de l'immigration. Et donc, il faut poser cette question-là, la mettre sur la table, parce que sinon, c'est un tonneau des Danaïdes. Vous avez raison, l'école sera tout à fait démunis pour lutter contre ces signes religieux.
Ce qui est gênant, c'est que au gré des prises de parole des ministres de ce gouvernement, on se demande s'ils forment une même et seule équipe. Ils ne sont pas en phase. Quand c'est Darmanin qui parle, on va se demander si c'est dans le même gouvernement que Pape Ndiaye. À l'identique, si c'est Bruno Le Maire. À l'identique, si c'est Dupond-Moretti. Il va falloir quand même, à un moment donné, et comme on a une première ministre qui est quand même un peu effacée sur les questions régaliennes, on voit bien qu'elle est sur les questions sociales, elle est sur les questions de comment la réforme de la retraite va être menée, l'allocation chômage, mais sur les questions régaliennes, on sent que le président de la République est en direct avec ses ministres. Mais alors, c'est à lui de donner le là. Pourquoi on ne l'entend pas sur ces questions-là? Il va falloir qu'on nous dise où on va.
Vous êtes optimiste, ça dure quand même depuis 5 ans et demi.
Oui, mais ça dure depuis 5 ans et demi. Ça ne vous a pas échappé quand même qu'il y a des sujets dans notre pays qui méritent d'être tranchés parce que Emmanuel Macron...
Ils étaient tout aussi présents.
Emmanuel Macron, il y a eu des élections. Il y a eu des élections qui envoient aussi des signes au président de la République qui consistent à dire... Il faut apporter des réponses claires.
Il ne devrait pas le faire. Je vous dis juste que je pense qu'il y a peu de chances qu'il le fasse.
Moi, je suis optimiste et que vous êtes pessimiste.
Avec tout, effectivement, on termine sur une note, somme toute, pessimiste.
Lucide.
Non, optimiste. Et on se retrouve dans un instant, décidément. On va se demander en Italie qui est Giorgia Meloni. Puis on fera, bien sûr, le point sur la saga, le feuilleton France Insoumise. Après Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard. C'était ce matin sur CNews. 18h30 sur CNews, la suite de Punchline, dernière partie, juste après l'info, avec NFLE.
L'Islande affiche sa stupéfaction. La police annonce avoir déjoué un projet d'attentat terroriste, le premier de son histoire. Il entendait viser des institutions étatiques de la paisible nation nordique. Le pays n'a jamais été confronté à un événement de ce type sur son sol. Washington annonce des mesures pour faciliter l'accès des Iraniens à Internet. Dans le pays, les connexions sont toujours verrouillées par le régime avec le blocage de WhatsApp et Instagram notamment. Alors le département du Trésor américain annonce un assouplissement des restrictions de commerce avec l'Iran, une manière d'autoriser les entreprises à fournir davantage de services aux populations. Et puis c'est l'une des conséquences de la crise énergétique en France. Certains monuments municipaux cesseront d'être éclairés à partir de 22h ce soir à Paris. L'hôtel de ville notamment est concerné, la tour Eiffel également. Elle sera désormais éteinte au départ du dernier visiteur à 23h45.
Toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, Geoffroy Lejeune, Jean-Sébastien Ferjou et Karim Zeribi. Cette question en présent qui est Giorgia Meloni. Les Italiens vont voter, vous le savez, ce dimanche pour élire leur nouveau Parlement. Et parmi les grands favoris de cette élection, le parti de droite radical Fratelli d'Italia et à sa tête une certaine Giorgia Meloni, la politicienne, 45 ans. Religieuse, conservatrice, anti-système, pourrait devenir la première femme d'Italie à prendre la tête d'un gouvernement, Sybille Delettre.
Ils étaient réunis pour un seul et unique meeting, triomphal. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et Giorgia Meloni, les trois leaders de la droite et de l'extrême droite italienne, alliés dans une coalition inédite pour les législatives qui auront lieu dimanche.
Nous voulons une Italie forte, sérieuse et respectée sur la scène internationale.
C'est cette dernière qui pourrait s'installer dans le fauteuil de présidente du Conseil italien. La coalition des droites est donnée favorite avec 25% des intentions de vote.
La gauche est là, en train de répéter qu'elle a peur, mais ils ont peur parce qu'ils ont compris que leur système de pouvoir est sur le point de se terminer.
À 45 ans, Giorgia Meloni est à la tête du parti Fratelli d'Italia, héritier du fascisme, avec pour credo famille, religion et patrie. Mais depuis des mois, elle a tout fait pour lisser son image, à tel point que sa formation pourrait devenir le premier parti d'Italie.
En termes de politique, bien sûr, avoir Giorgia Meloni comme première ministre signifierait par exemple une plus grande protection des industries italiennes contre les investissements étrangers et bien sûr une vision plus stricte de l'immigration.
La clé du scrutin, le taux de participation, il pourrait atteindre un niveau historiquement bas, sous la barre des 70%.
Geoffroy Lejeune, quel que soit le résultat, qu'elle gagne ou qu'elle perde au final, est-ce qu'elle a déjà gagné, Giorgia Meloni ?
Alors, en tout cas, elle a réussi beaucoup de choses. Il faut rappeler qu'elle part de 3-4% il y a quelques années et que son mouvement n'existait quasiment pas au moment où Salvini, lui, occupait les premiers rangs de la politique italienne, qui était ministre de l'Intérieur. Moi, ce que je trouve assez intéressant, il y a deux choses qui m'ont intéressé dans cette élection. La première, c'est de voir comment ces partis se sont unis. Alors, évidemment, comparaison n'est pas raison, puisqu'on n'a pas le même mode de scrutin, donc on ne peut pas imaginer la même chose en France. Mais là-bas, la droite, la droite radicale, la droite de gouvernement classique, celle de Berlusconi, etc., se sont alliés. Ça, c'est la première chose. Et comme un peu, comme on a vu un peu en Suède. Et la deuxième chose qui m'a intéressé aussi, c'est la manière dont, de manière extrêmement rapide, Giorgia Meloni a réussi à remplacer, à supplanter le parti qui était installé depuis quelques années, qui était celui de Matteo Salvini. Parce qu'il a fait des erreurs, il a participé à un gouvernement, au gouvernement de Draghi, etc., qu'il a fait une vraie erreur stratégique au moment où il a voulu provoquer des élections, ce qu'il n'a pas réussi, donc il a perdu. perdu sa participation au gouvernement. Bref, mais elle a profité de toutes ces erreurs-là pour, en quelques mois, commencer à incarner ce qu'il incarnait auparavant. On le pensait installer pour très longtemps, Matteo Salvini. Donc, ce parti a poussé un peu comme un champignon, c'est-à-dire avec la même rapidité. Et elle a réussi à être aujourd'hui la tête de cette coalition. Et on dit beaucoup en France héritière du fascisme. C'est vrai, moi j'ai été assez frappé, j'ai découvert ça il y a quelques années. Le rapport au fascisme n'est pas du tout le même en Italie et en France. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas du tout quelque chose qui est aussi connoté négativement que ça peut l'être chez nous.
Et là-bas, on peut dire qu'on adore Mussolini ?
Bah, je sais pas si Mussolini est très populaire en Italie. En revanche, le mot fasciste ne veut pas dire comme chez nous, il veut dire l'association avec le nazisme, etc. C'est vraiment un courant politique italien combattu, contesté, etc. Mais c'est pas du tout aussi infamant. Et de voir que de la droite de gouvernement classique, Berlusconi, il a quand même été à la tête de ce pays pendant très longtemps, s'allie avec elle, c'est assez amusant. Et en effet, c'est une première.
Est-ce que c'est ce qu'elle dit, Gabriel Cluzel, qui fait la différence, ou c'est la manière dont elle le dit? Son parler est vrai, son parler est cache.
Elle est cache, elle est assez naturelle. Hein. On se souvient d'une déclaration qui a fait Flores. On en a même fait un remix où elle dit je suis Georgia, je suis une mère, je suis italienne, quelque chose de très basique, de familial. Elle a des vrais talents d'oratrice. Hein. On l'a vu du reste à la tribune. Alors elle s'inscrit dans un mouvement de femmes de ces mouvements dits populistes. On pourrait la comparer avec Marine Le Pen ici, mais il y a pas mal de députés de Vox aussi qui émergent espagnols comme ça, que c'est des figures familiales, souvent conservatrices, catholiques, qui percent en politique. Il y a aussi la présidente hongroise, même si c'est autre chose, hein, parce que c'est pas elle qui est élue, mais c'est vrai que c'est des femmes qui émergent et c'est assez intéressant comme mouvement. Alors moi, je voudrais revenir sur la qualification de fasciste. À chaque fois qu'on parle de Giorgia Meloni, on dit qu'elle est fasciste. Alors, si on avait dit à chaque fois de Fabien Roussel qu'il était communiste, héritier de millions de morts quand il s'est présenté aux élections présidentielles en France, ça aurait été...
C'est parce que se réclame de Mussolini, je pense.
Non, mais très bien. Mais est-ce que les communistes chez nous et tous ceux qui ont milité pour Mao, etc., et qui sont aujourd'hui surtout dans tous les médias, à chaque fois, on leur reparle de leur passé de cette façon-là? Je ne crois pas. Mais peu importe, parce que Geoffroy Lejeune a raison. En Italie, le mot n'est pas connoté
c'est pas
de la même
perception.
Façon.
C'est vrai.
Ce qui est vrai, c'est que
un des prédécesseurs de Giorgia Meloni, Gianfranco Fini, était président de l'Assemblée nationale. C'était pourtant exactement la même chose. Hein. Et ils se réclamaient du fascisme également. Enfin, ils ont une décontraction avec ça assez étonnante.
Maintenant, la tâche va pas être facile hein, pour elle, parce que elle parvient à ses fins, parce que la situation italienne est quand même extrêmement compliquée. Donc, ça ne va pas être un pique-nique, cette affaire.
Karim Zeribi, Dieu, la famille, la patrie, c'est le triptyque, c'est sa devise à Giorgia Meloni. Mais, on est d'accord, cela ne suffit pas pour séduire. Qu'est-ce qui fait qu'elle séduit aujourd'hui le peuple italien ?
Moi, déjà, je crois qu'il y a un mécontentement des peuples européens de ce qu'est l'Union européenne. Et quand vous avez des candidats qui contestent cette organisation politique qui, finalement, ne fait pas tant de politique que ça... puisque ça donne le sentiment d'être une grande bureaucratie qui sert des intérêts particuliers et qui ne sert pas l'intérêt général et l'intérêt des peuples. C'est un peu ce que donne l'impression d'être l'Union européenne. Donc il y a une forme de révolte des peuples qui se tournent vers des candidats qui remettent en question le fonctionnement européen et qui en appellent, j'ai envie de dire aussi, à une reprise en main de son destin. Donc une forme de retour de la souveraineté. Donc elle prône ça. Et ça, on peut l'entendre. Et on peut l'entendre sans être d'extrême droite. Ensuite, la question de la famille à l'identique. Donc, c'est là où il faut savoir faire la part des choses. En tout cas, moi, je tente de la faire avec discernement et nuance. Le fait qu'elle soit, elle se déclare comme héritière de Mussolini me dérange profondément. Pour moi, c'est l'extrême droite et le fascisme.
Moi, je trouve que Mussolini était un bon politicien, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait... Ouais. Oui. Il l'a fait pour l'Italie et elle rajoute, et c'est justement quelque chose qu'on ne retrouve pas avec les politiciens
qui
de ces 50 dernières années,
qui ont quitté l'Italie et qui sont allés trouver donc une place de par le monde, parce qu'effectivement le régime de Mussolini était un régime quand même assez abominable. Je veux dire, il faut quand même remettre l'église au centre du village aussi sur les questions historiques, parce qu'on peut faire du révisionnisme, mais il y a quand même un peu des limites. De l'autre côté, et c'est là où je voudrais en terminer, elle soulève des vrais sujets, des vraies questions, et je dis, elle peut pas avoir tort sur tout. Je veux dire, la question de la famille est une question que plus personne ne soulève dans la vie politique, mais pas que italienne, française. Vous voyez des candidats, vous, qui vous parlent de la famille ?
Tu peux.
Donc, ah bon ? Ben, moi, j'en vois pas beaucoup. Ouais. Donc, on a l'impression, effectivement, que si on parle de la famille, on est hyper conservateur et on est totalement décalé avec ce que doit être aujourd'hui la conception donc de la famille qui n'est plus celle que l'on a traditionnellement. Moi, personnellement, la famille, c'est un sujet qui me tient à cœur. La souveraineté, c'est un sujet qui me tient à cœur. La question de reprendre avec qui on s'en destamait. Pareil pour la croyance. Je veux dire, chez nous, on a presque diabolisé les croyances. Je veux dire, donc, c'est presque pas terrible de croire en Dieu. Donc, et on aime dire que 51% des Français donc, se déclarent athées. Oui, ok, très bien. Je veux dire, et alors ? Je veux dire, les 49%, c'est quoi ? Ils sont moins bons que les autres ? Il y a des sujets sur lesquels je pense que l'extrême droite surfe, j'ai envie de dire, habilement et intelligemment, parce qu'il y a des attentes qui ne sont pas satisfaites donc, par les autres. Quand j'ai dit ça... Pour autant, je reste assez effrayé de voir qu'elle se déclare...
Promis, Jean-Sébastien Ferjou, je vous passe un extrait de Ursula von der Leyen. C'est juste pour vous, dans un instant. Gabriel.
Une mère de famille de 7 enfants, mais qui n'est pas d'accord avec Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen. Non mais vous avez raison, la famille, c'est vraiment l'angle mort. Le dernier ministère qui s'occupait de la famille, ou qui prétendait le faire, c'était sous Hollande, il s'appelait le ministère des familles, pour montrer qu'il n'y avait pas une famille. Vous le voyez venir, c'était un peu un déprivatif des familles, qui a détricoté les familles. Après, il n'y en a plus de ministère de la famille. Donc c'est un angle mort, et pourtant, pour un sujet tout simple, qui est celui des retraites, on sait très bien que si on ne s'occupe pas de la famille, si on ne s'occupe pas de la natalité, si on ne s'occupe pas de tous ces sujets-là, et bien évidemment, il n'y aura pas de solution. Mais la sécurité, c'est aussi un sujet familial.
Ah oui, la cohésion,
vous demandez, tous les sujets sont familiaux, si j'ose dire. Le pouvoir d'achat, c'est un sujet familial.
D'ailleurs, l'absence de retraite est aussi un sujet familial.
Exactement.
Les Italiens
et c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un sujet transverse qui, en réalité, intéresse concrètement tous les Français. Vous leur demandez qu'est-ce qui vous préoccupe à l'avenir de mes enfants, mais qui pourrait le nier ? Donc, Giorgia Meloni et d'autres ont raison de se saisir de ce sujet-là et ça fait de fait leur succès. Mais il n'y a pas que ça. Le souverainisme, sans doute, l'Union européenne et puis aussi, évidemment, l'immigration.
Près d'un électeur sur quatre voterait pour le parti de Giorgia Meloni et, eh bien, ça attire forcément l'attention d'une certaine Ursula von der Leyen qui nous fait une menace à peine voilée. Écoutez.
We'll see if things...
Nous verrons si les choses vont dans la mauvaise direction. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne. Nous avons des instruments. Nous venons aussi d'avoir des élections en Suède. Mon approche est quel que soit le gouvernement élu démocratiquement, nous travaillons ensemble.
Jean-Sébastien Ferjou.
D'ailleurs, Matteo Salvini a demandé des excuses de la part de sur la
Des excuses ou sa démission.
Exactement. Parce qu'il faut bien dire, et c'est une explication du succès possible de Giorgia Meloni. Puisque moi je suis d'accord avec ce que disait Karim, je pense qu'il ne faut pas oublier ni minimiser ce qu'a été le fascisme. Après, je pense que la référence, elle est relativement superficielle et qu'effectivement, aux oreilles des Italiens en tout cas, ça ne sonne pas de la même manière que nous. Mais l'histoire de l'Italie, en tout cas l'histoire récente de l'Italie, on peut l'expliquer par justement le fait que l'Union européenne en permanence ait commis des intrusions dans les processus électoraux. Mario Draghi, il faut le rappeler, était porté au pouvoir sans passer par la case élection, parce que la Banque Centrale Européenne a fait pression et s'est débrouillée pour que les marchés produisent une espèce de crise de la même manière qu'ils sont en train de le faire encore à l'heure actuelle. Ils n'aident pas l'Italie pour l'instant, justement pour pouvoir avoir des moyens de pression sur l'Italie ensuite. Donc on peut détester Giorgia Meloni pour mille raisons différentes. Ça n'est pas une raison dans un système démocratique pour contester le résultat du vote. D'autant que Giorgia Meloni, si elle arrive au pouvoir, c'est parce qu'il y aura aussi des partis de droite qui sont d'accord pour s'allier avec elle. Et Geoffroy tout à l'heure parlait de Gianfranco Fini. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est un modèle, mais en tout cas le système politique italien, il est troublant. J'emploie bien le mot troublant. Je ne dis pas que c'est formidable ni terrorisant, mais troublant parce qu'il a réussi justement à acclimater dans la vie politique normale, parce que Gianfranco Fini, qui venait clairement de l'extrême droite, est devenu un politicien de centre-droit, allié à Silvio Berlusconi, en étant plutôt à la gauche de Silvio Berlusconi. Et donc, il ne faut pas sous-estimer la force du système italien justement à normaliser les choses avant d'envisager des sanctions. Mais cette intrusion dans les procès processus démocratique, elle est proprement scandaleuse, sauf évidemment à ce que l'Italie, décide d'établir une hiérarchie des races ou bref, je ne sais quelle mesure délirante qui ne correspondrait pas aux valeurs, mais ça n'est pas le programme de Giorgia Meloni. D'ailleurs, elle est même plutôt pro-européenne.
Elle est plus que scandaleuse, elle est dévastatrice dans l'idée qu'on se fait de l'Europe.
Il nous reste cette petite minute et j'aimerais évoquer avec vous en plateau, bien sûr, chez vous, ces propos. C'était ce matin sur CNews. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Propos du député de la France Insoumise, Manuel Bompard. Écoutez.
J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui sont portées à son encontre. Ce sont des accusations. Bien évidemment, il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance.
Il y a ce sentiment de crispation, effectivement, au sein même de la NUPES. Gabriel Cluzel, voilà ce qu'a dit Sandrine Rousseau. Une gifle à sa conjointe, c'est un délit. Tous ces mots-là sont des mots qui minimisent ses actes. Je rappelle qu'il y a 230 000 femmes qui subissent actuellement des violences conjugales. Est-ce que Manuel Bompard a minimisé les violences faites aux femmes ou pas du tout?
Non, mais Manuel Bompard, il a dit une chose qui, juridiquement, sur un plan tout simple, la justice est vraie. C'est-à-dire que une gifle, c'est répréhensible, c'est condamnable, mais néanmoins, c'est pas pareil que de frapper sa femme. Ça, tous les jours, c'est évident. Et heureusement que la justice dans notre pays fait des nuances. Simplement, nous avons été surpris parce que ce n'est pas la nuance, c'est pas ce qui caractérise la France insoumise. Et évidemment, Sandrine Rousseau, elle, a sauté sur l'occasion et sur la déclaration. Pour faire valoir son point de vue. Et de fait, elle se débrouille quand même pas mal parce que les uns derrière les autres, on a un paquet d'hommes qui pourtant ont voulu donner des gages par le passé de féminines, des gages brillants, qui aujourd'hui ont été mis sur la touche. Donc de là à penser que Sandrine Rousseau va devenir qui va succéder à Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même un pas. Mais néanmoins, évidemment, elle n'est pas du même parti. De toute façon, elle est écologique, elle est écologiste, mais au moins au sein de la NUPES, après tout, pourquoi ne pas l'envisager ? Ce qui est évident, c'est qu'elle tire sacrément son épingle du jeu. Moi, ce qui me frappe, c'est que, pour parler de la NUPES, c'est que donc la France insoumise est embourbée jusqu'au cou dans toutes ces affaires-là. Et je constate que ceux qui se sont alliés à eux pour les élections sont d'une discrétion de violette. Ils sont tous ailleurs. Ils n'ont pas vu, pas entendu, sourds et aveugles.
Au PS, ils ont piscine.
Je pense que voilà, exactement. Je pense que Olivier Faure a eu un soutien un peu embarrassé, mais néanmoins il a soutenu. Lui aussi, avec le même genre de démonstration.
Avec Aurélie Filippetti, lui répondant que le PS avait ses propres.
Ça se passerait à droite. On exigerait des gages, un cordon sanitaire, une garantie de se désolidariser. Donc on voit bien que quand c'est à gauche, tout est plus facile.
Explication de texte. Donc bien sûr, il y a eu ces propos ce matin au micro de Laurence Ferrari. 3 heures plus tard, voilà ce qu'a dit via un communiqué Manuel Bompard. Je n'ai jamais dit ni pensé qu'une gifle n'était pas grave. C'est un fait grave et inacceptable. Et je l'ai rappelé ce matin dans mon propos. Je rappelle seulement les principes fondamentaux en droit, la proportionnalité, Karim Zeribi de la peine et l'individualisation des peines. Cette défense, cette position, surtout au sein de la NUPES, qui est un petit peu tiraillée en ce moment. Est-ce qu'elle est tenable ?
Non, mais ils s'embourbent parce que ces gens-là ne sont pas clairs. Et sur ce sujet comme sur d'autres, quand on a des postures à géométrie variable ou une forme d'indignation sélective, à un moment donné, ça revient toujours en boomerang. Et c'est ce qu'ils font actuellement. Quand ça ne concerne pas leur parti, ce sont les premiers à tirer à boulet rouge et à ne pas respecter la présomption d'innocence ou quoi que ce soit qui va avec. Quand ça les concerne, ils sont toujours sur la recherche de circonstances atténuantes ou de minimisation du phénomène. C'est insupportable. Que ce soit la France insoumise, que ce soit LR, le RN, la République en marche, lorsque des femmes et des hommes politiques adoptent ces postures, c'est insupportable. C'est insupportable et ça les fait perdre en crédibilité très fortement. Et là, je vais vous dire, sur le sujet, moi j'en ai assez d'entendre parler aussi de ces organes internes qui seraient là pour traiter les cas. Mais c'est quoi ça, ces organes internes? C'est quoi? C'est pour étouffer les affaires ou c'est pour accompagner les victimes? Ça, si c'est pour accompagner les victimes, on va dire, directement,
on va dire
c'est
que
le
c'est
commissariat.
Des cellules de crise.
Si c'est la cellule de crise, elle doit être une cellule qui écoute la victime et qui l'accompagne pour pas qu'elle soit seule, pour qu'elle soit, elle se sente forte, en confiance, dans un commissariat. On a des institutions républicaines. À quel moment on va se substituer aux institutions républicaines? Si une femme considérée qu'elle a été maltraitée ou qu'elle a été harcelée, elle va voir un fonctionnaire de police, normalement qui a été formé pour ça, qui prend en compte son témoignage. La plainte est transmise au parquet et ensuite c'est le parquet qui avise. Mmh. Peut-être que ce sera sans suite. Rien ne dit que ce sera toujours poursuivi. Mais ça n'est en aucun cas à une cellule interne d'un parti à gérer ce type d'affaires. Moi, je trouve que je suis assez abasourdi de voir, on minimise, on s'est dit une géométrie variable, c'est l'affaire de la cellule, j'ai pas senti que la femme de ma chaîne, de ci, de là... Mais c'est quoi ces histoires
chez nos
qui reviennent sur la planète Terre?
De France 5, Sandrine Rousseau torpillait littéralement la carrière, j'ai le sentiment, de Julien Bayou. Est-ce qu'il doit démissionner aujourd'hui, Jean-Sébastien Ferjou? Est-ce qu'il... on a déjà vu que c'est mis en retrait. Est-ce qu'il doit démissionner?
Il y a deux manières de répondre à la question. C'est peut-il ne pas se mettre en retrait au regard de la pression qu'exerce sur lui un certain membre de son parti? Et après, il y a la question d'un point de vue moral plus général. Moi, je crois, justement, Karim, il faisait référence que, malgré tout, il y a la présomption d'innocence. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé entre Julien Bayou et sa compagne. On va dire que ça m'intéresse pas véritablement. La question des violences conjugales est plus intéressante que de savoir ce qui s'est passé dans un couple. Et je ne crois pas que la focalisation et cette espèce de combat comme le pratique Sandrine Rousseau, fasse progresser la cause des femmes. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de victimes qui vont au commissariat et à qui on refuse un dépôt de plainte, on les réoriente plutôt vers la main courante. Alors quand on est célèbre, effectivement, mais alors à croire que les victimes, il faut qu'elles choisissent de se faire tabasser par des personnalités politiques et ou que ce soit filmé sur les réseaux sociaux pour que la justice daigne se mobiliser en leur faveur. La réalité, c'est qu'il y a énormément de victimes de violences conjugales et ou de violences sexuelles qui ne peuvent pas être entendues par la justice, tant le système est engorgé. Donc préoccupons-nous un peu plus justement des vrais combats que des questions finalement, j'ai envie de vous dire, mais c'est à la justice de se prononcer. Quand Sandrine Rousseau ose dire qu'elle met en cause Julien Bayou, mais qu'il n'y avait rien de pénalement répréhensible dans ce qu'elle a entendu des faits qui lui sont reprochés, mais qui est-elle pour apprécier ce qui se passe dans un couple?
Mais ils sont
a priori, il y a assez peu de ruptures qui se passent.
C'est quand même extrêmement dangereux. Ça fait sortir physique. Toutes ces affaires du registre de la justice. Alors, d'un côté, de fait, il y a ces espèces d'instances internes. C'est ce qu'on le reproche à la police, en plus de gérer leurs affaires en famille. Mais c'est ce que fait la France Insoumise. C'est aussi ce qu'on a reproché à l'Église. Du reste, on l'a dit, vous avez étouffé vos affaires de pédophilie, vous avez voulu régler ça en interne. Toutes ces instances internes aboutissent au même résultat. Et puis ça donne un pouvoir quand même exorbitant aux femmes. Moi j'ai entendu Laurence Rossignol à propos de ces affaires, elle m'a fait peur parce qu'elle m'a dit, elle disait oui, il y a le registre de la justice et puis il y a un autre registre. Ben non, il y a la justice et puis il y a la justice. Parce que vous doutez bien que quand il y a un divorce ou une dispute entre un homme et une femme, une rupture, mais ça se passe rarement bien. Ils se quittent pas en disant embrassons-nous Folleville. Donc si...
Quand même pas obligé de se gifler.
Non, je parle pas de la gifle, je parle du cas Bayou.
D'accord.
Non, mais Patrice,
L'un des deux est dépressif, par exemple, après, ce n'est pas la preuve que l'autre a été violent. Et moi, je trouve que balancer toutes ces affaires-là sans nuance, pour le coup,
c'est le danger. Mais le danger vraiment d'un raisonnement à la Laurence Rossignol, c'est que oui, très vraisemblablement, la plupart des accusations sont vraies. Sauf qu'il suffira d'un jour où il y aura un scandale et on verra qu'il y avait une accusatrice qui mentait pour que toute leur pyramide s'effondre. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça repose sur du vent. Il faut que ce soit traité par la justice.
Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une société parallèle. On a une société avec des institutions, c'est par là que ça doit passer. Il n'est pas question qu'il y ait une société parallèle que ces gens-là que préconisent de mettre en place. Et un peu, c'est un peu ce que fait Sandrine Rousseau. Moi, ça me gêne et ça me fait peur.
Obligé de vous couper. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce nouveau numéro de Punchline. Tout de suite, ça se dispute avec Elliot Deval. Excellente soirée.